Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonsoir à toutes et à tous, 19h06, toutes nos excuses pour ce petit retard, mais enfin, c'est pas grave, hein, on sera jusqu'à donc 20h36. On va naturellement retrouver aujourd'hui un dispositif un petit peu habituel, hein, puisque on aura notre match de foot France-Irak que vous pourrez vivre en direct sur Mon Paris FM à partir donc de 23h. Donc, on sera avec vous en configuration donc Mon Paris Sport pendant 1h30. Mais on essaie de se rapprocher le plus près possible du match. Donc 19h50, c'est le début de cette émission. On va saluer donc notre ami donc Pierre Lagru qui est avec nous. Bonsoir Pierre.
Bonsoir Philippe.
Comment ça va Pierre?
J'ai chaud.
Ouais, t'as chaud, bah, comme chaud, tout le monde, hein, comme toute la France.
Sinon ça va.
Ouais. Il était venu pendant les élections municipales, donc il avait été un de nos invités. Il était venu parler sport, il avait promis de revenir parler foot, c'est Cédric Panizzi. Bonsoir Cédric.
Bonsoir.
Ouais. Ça va, grand amoureux du foot aussi. Hein.
Exactement, ouais, très ça. Content d'être
voilà.
Là.
Voilà. Et puis je vais saluer Théo. Bonsoir Théo.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous.
Tu vois, on a décalé un tout petit peu pour que tu puisses te préparer parce qu'il y a le match à 23h que tu vas commenter
Il est quand même tard, hein, donc on a essayé de décaler au maximum.
Bah oui, essayer d'être le plus près possible de l'événement. Bonsoir Stéphane Sorando, ça va Stéphane?
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous.
Pleine forme?
Ouais, pleine forme.
Toujours une belle Coupe du Monde?
Jusque là tout va bien, voilà, j'ai hâte de la suite, mais ça va.
Voilà. Elle avait pris quelques petits jours de repos et puis voilà.
Mais je suis de retour.
Absolument.
Sur l'escrime la semaine dernière avec le plus grand des plaisirs, on y reviendra tout à l'heure dans le journal des sports entre autres.
Et donc ça va pour le foot qui t'intéresse?
Oui,
un petit peu.
Oui, j'ai suivi plusieurs matchs de l'équipe de France, Allemagne, Côte d'Ivoire et puis Égypte contre la Belgique. Trois matchs que j'ai pu suivre en intégralité et que j'ai beaucoup apprécié.
D'accord, et tu es en train donc de nous finaliser le journal des sports.
Exactement.
On pourra entendre dans une vingtaine de minutes. Messieurs, on va commencer d'abord par l'équipe de France. Hein. On va revenir très brièvement, Théo, sur le match de la semaine dernière que El Hadji a commenté sur les ondes de Paris FM avec Maxence et qu'on a donc pu suivre sur notre antenne. Une équipe de France à deux visages. Hein. Une première mi-temps, on s'est vraiment inquiété. Hein. Une équipe de France fade, sans âme, soporifique. Et puis bing, ça a été complètement une deuxième mi-temps aboutie pour l'équipe de France. On a retrouvé la grande et belle équipe de France.
Oui, en effet, Philippe, on avait, comme tu dis, eu très peur hein, en première mi-temps. C'est-à-dire que la France avait très peu d'idées, on n'arrivait pas à trouver nos joueurs et subissait surtout un pressing constant de la part des Sénégalais. Et comme tu l'as dit, tout a changé à la mi-temps, réajustement tactique. Donc Olise replacé en 10 à la place de Dembélé et Dembélé sur l'aile. Et là, tout a changé. Physiquement aussi, les Sénégalais ont craqué peu à peu et ont justement moins pressé, laissant de plus en plus de place à un Michael Olise qui était simplement déchaîné. Donc, il a servi ses compères bleus à merveille et ça a donné une très très belle victoire.
Pierre, ce match?
Même impression. À la mi-temps, grande peur, non pas du résultat, mais que ce jeu soit vraiment pourri jusqu'au bout. Puis en seconde mi-temps...
Oh, quel match en deuxième mi-temps? Quelle équipe de France?
Tout change.
Ah ouais. Et du bon Mbappé hein, qui
avec
devient
du bon Mbappé.
Le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France.
Ouais. Oui, c'est pas fini. Oui, avec du très bon Mbappé, du très bon Olise.
Oui.
Un peu de problème en défense quand même. Mais bon, c'était une masterclass en deuxième mi-temps.
Cédric?
Ben oui, ce superbe match, mais on a, comme vous l'avez dit, on a eu très peur en première mi-temps. Ouais. Mais on a vu aussi un relâchement mental en deuxième. En deuxième mi-temps, on a vu les Français être beaucoup plus relâchés, mieux, plus confiants. C'est vrai que l'ouverture du score, ça a un peu débloqué les choses.
Hein. Mais tant l'idée, il n'a pas été tendre. Hein.
Mais c'est ça qui a peut-être débloqué la situation. Moi, j'ai vraiment apprécié la deuxième mi-temps. Il faut aussi vraiment souligner le travail qu'ont fait les Sénégalais en première mi-temps. Oui. Parce qu'ils ont été très pressants. Ça a été vraiment un gros match de leur part. Mais comme tu le disais tout à l'heure, c'est vrai qu'ils ont eu des difficultés après à maintenir ce rythme-là, cette pression. Et bon, les Français ont vraiment bien exploité ça. Le repositionnement d'Olise, voilà, tout s'est décanté assez rapidement.
Bon, Stéphane, toi, ce match, tu vas partager cette opinion?
Ben oui, tout à fait. À ce niveau-là, j'ai hâte. J'ai hâte de voir la suite. Surtout que ce qui est bien avec Dédé, bah, c'est qu'il a, il a un banc extrêmement fourni, notamment sur le plan de l'attaque. Donc,
bah, on l'a vu hein, voilà. En deuxième mi-temps où il a changé souvent à, du côté droit. Hein.
Oui, oui, tout à fait. Et honnêtement, je pense que là, il y aura, à mon avis, une petite revue d'effectifs pour faire reposer les cadres. Mais même là, c'est très, très fort. Je m'attends vraiment à un beau match ce soir.
D'où le jeu beaucoup plus dynamique en seconde mi-temps et surtout la fin qui était vraiment un rebondissement avec le Sénégal qui égalise et puis derrière Mbappé qui remet un but, ça c'était vraiment intense.
Et il y a un repositionnement d'Olise, ça
aussi,
ça a pu jouer.
Oui. Hein,
donc, parce qu'Olise était à droite à un moment, il a bifurqué au centre, après on a vu Dembélé puis après Doué, enfin bon bref, donc ce positionnement, Pierre, il peut avoir joué.
Oui bien sûr, et si tout va bien, Olise pourrait être l'homme de cette Coupe du Monde.
Oui,
Au Bayern, il joue à droite, il est très bon. Mmh. En équipe de France, on l'avait laissé à droite. Mais là, derrière Mbappé, il y a des circuits de passe. C'est grand chose. Quoi.
C'est un caviar, le ballon qui passe à Mbappé. Hein.
Oui.
C'est un caviar. Hein.
C'est un caviar, oui.
Ah ouais, c'est sûr que... Alors, Théo, toi qui vas commenter le match, tu as préparé tes fiches. On connaît déjà un petit peu ce que va être l'équipe de France.
D'après nos confrères de l'équipe, on resterait donc,
parce qu'on dit tant que
on n'est pas encore sûr,
pas
pour l'instant c'est une composition probable, donc on resterait sur un 4-2-3-1 comme on a vu face au Sénégal, Maignan toujours dans les buts, Koundé en latéral à droite, Upamecano Saliba reconduit pour la charnière centrale. Digne.
Très bon match d'Upamecano la semaine dernière,
qui a été
très bon match,
une des très bonnes surprises aussi. On avait questionné cette défense et ils ont vraiment répondu présent. Digne sera lui aligné à gauche en tant que latéral gauche justement. Dans le milieu A2, on aurait Rabiot, une nouvelle fois reconduit pour ce match, et Manu Koné qui pourrait être titularisé justement pour faire souffler Tchouaméni. Olise serait vu donc en position numéro 10, comme on l'a vu à la fin de ce match face au Sénégal. Dembélé serait à droite, Mbappé en pointe en tant que capitaine, et Barcola serait sur l'aile gauche.
D'accord, c'est Barcola qui commencerait cette fois-ci le match, et non pas Doué, mais enfin, on peut penser que Doué va rentrer en cours après.
Ouais. Potentiellement, après ça reste une composition probable. À voir si Dembélé sera pas sur le banc, comme on a vu quelques questions là-dessus, c'est pas sûr.
Alors l'Irak, c'est la première confrontation. France-Irak, c'est le premier France-Irak de l'histoire. Bon, il faut rester quand même méfiant, Pierre, parce que on va le voir dans les autres résultats de ce mondial, il y a quand même quelques surprises.
Ouais, il faut rester méfiant, mais enfin c'est pas du tout le même niveau, quoi.
Ouais, donc,
normalement l'Irak, on doit quand même l'équipe de France doit le battre assez facilement.
Ouais, 4-5-0 par exemple.
Non,
un petit peu comme hier.
Un 3-0, un 3-0 tranquille.
Mm-hmm. Ouais.
Sauf, après, c'est du foot. Hein, c'est du foot. Il faut marquer les buts. Il y a un gardien de but.
Oui, bien sûr.
Oui, plutôt d'accord. C'est quand même une équipe qui s'est montrée assez joueuse face à la Norvège malgré une large défaite 4-1. Mmh. Donc il faut aborder ce match sérieusement, surtout qu'il y a beaucoup d'enjeux. On peut déjà être entre guillemets qualifié pour les 16e de finale après ce match là, donc il faut être sérieux, mais on sait très bien que cette équipe de France va faire le boulot assez facilement, je pense, ce soir.
Parce que bon, c'est vrai qu'il faut dire, ce qui est important pour nous, c'est la place dans ce groupe, hein. Ça va jouer probablement après le match de la Norvège vendredi, qu'on vivra aussi sur mon Paris FM. Premier ou deuxième, quoi. Ça détermine la suite des événements, Cédric.
Oui, et je pense qu'il faut se méfier de l'Irak quand même parce qu'ils jouent leur survie. Donc ils sont acculés, sont dos au mur. Nous, la France, on a vraiment intérêt à marquer vite pour pouvoir débloquer la situation, faire en sorte que l'Irak se livre un petit peu plus, parce que s'ils commencent à nous poser un bus devant, on va user nos joueurs. Il ne faut pas perdre de vue tout ça aussi. C'est-à-dire que si on marque vite, qu'on plie vite le match en première mi-temps, on peut faire tourner, on peut reposer les cadres, on peut être un petit peu plus tranquille. Et ça, je pense que c'est vraiment important. Tout à l'heure, Théo, tu parlais du positionnement, enfin, du probable titularisation de Barcola. Moi, je pense que j'aurais plutôt tendance à laisser Doué en début de match parce que Doué est très usant justement pour les défenses adverses. Et Barcola, en termes de finisseur, comme on dit au rugby, c'est quelque chose de formidable.
On le voit avec l'équipe de France ou avec le PSG, hein, c'est souvent ça. Hein.
Exactement.
Il rentre souvent, hein, et c'est souvent un joker décisif. Hein.
Complètement.
Ouais, donc voilà quoi. Enfin bon, donc 23h le match, on va le suivre sur mon Paris FM.
Restez avec nous pour veiller et on va espérer que la météo sera avec nous.
Oui.
Parce que à Philadelphie, risque d'orage.
Ah.
Et
d'accord.
Si orage il y a et si un éclair tombe dans un périmètre de 13 km du stade, la rencontre sera interrompue pendant 30 minutes.
Ouf.
top chrono. Et si un autre éclair est diagnostiqué et tombe dans ces 30 minutes, le chrono se remet à 30 minutes. Donc, on pourrait veiller jusqu'à très, très tard.
Ouais. Tiens, ça me rappelle un France-Ukraine avant l'Euro en 2012, hein, où il y a eu un orage. Et je crois qu'on avait le match avait commencé avec au moins une bonne mi-temps de retard. Bon, on va poursuivre après sur les autres matchs de la semaine. Pour l'instant, tiens, bah, Vanessa va nous donner son journal des sports, justement, puisqu'il y a quand même d'autres actus sportives en dehors, Vanessa, de cette Coupe du Monde.
Tout à fait, Philippe.
Et on connaît déjà l'affiche pour la finale de rugby.
Et voilà, donc justement, alors on va commencer par le rugby. Il n'y aura pas de club parisien en finale de championnat de France. Le Stade français s'est incliné 25-15 face à Montpellier. Et dans l'autre demi-finale, le Racing 92 n'a pas pu rivaliser contre l'Ogre Toulouse. Donc large défaite, hein, 71-17. Donc c'est la finale qui opposera Montpellier au Stade Toulousain ce samedi à 21h. Ouais. On passe au basket. Paris-Monaco... Le prochain match, ce sera le suspense est total. Il y a eu donc une finale 2-2 après la victoire de Monaco 96-84. Et puis cette finale, ça jouera lors du match 5 demain à 21h10.
Le vainqueur sera champion de France.
Exactement. Et puis un mot de cyclisme, hein, 2 semaines avant le départ du Tour de France en Suisse, Tadej Pogacar signe une nouvelle démonstration. Le Slovène s'impose sur la dernière étape et remporte le Tour de Suisse. Le Français Lenny Martinez, longtemps en tête, termine deuxième à 8 secondes de Pogacar. Et puis en MotoGP, donc, nouvelle victoire de Marc Marquez en République tchèque. Ayogura crée la surprise en terminant derrière le pilote Ducati. Francesco Bagna referme le podium. En escrime, nous y étions, Philippe. Donc, un total de 10 médailles. Hier, ça s'est terminé avec l'or par équipe chez les femmes en épée dame contre les Hongroises. Et puis, 42-36. Chez les hommes, par équipe au fleuret, c'était 45-22 contre les Italiens. Ça a été beaucoup plus difficile. Mais on peut vraiment se réjouir des autres résultats. Donc, on a eu un doublé tricolore en sabre, messieurs, avec la victoire donc, de Jean-Philippe Patrice en individuel contre son compatriote Pianfetti.
Et qui est son pote aussi.
Et son pote, ouais. Et voilà. Toscane Tori, elle, chez les femmes en individuel, a décroché le bronze. Et puis, en sabre par équipe, c'était le bronze également. Donc, 42-45 contre la Roumanie. La France est inclinée. On a eu également l'équipe en sabre, toujours en argent par équipe chez les femmes. C'était les Françaises qui se sont inclinées face aux Russes, sous bannière neutre, donc à IN. Et puis, on va prendre le fleuret maintenant. Donc, l'or pour Raphaël Savin, hein, première médaille d'or pour le Français. 42-36 contre le Polonais Radioski. En fleuret par équipe, on est pour chez les femmes, c'est la médaille d'argent contre l'Italie, 45-31. Et puis chez les hommes, donc, une médaille également en argent chez les hommes, donc contre l'Italie, 45-26, je vous en avais parlé au début. Et puis en épée dame, je vous en ai déjà parlé. En revanche, l'épée par équipe... c'était l'argent 30-45 et puis voilà pour ces résultats et on termine, excusez-moi.
Et il y avait une médaille de bronze aussi côté français, donc la première sabreuse française.
Oui, Toscane Tori, ça j'en ai parlé tout au début, oui, voilà. Tout à fait, je crois que j'ai rien oublié. 10 médailles en tout.
Voilà, donc deuxième nation.
Deuxième nation après l'Italie, ouais. Voilà, l'Italie qui a frappé fort, mais nous on a vraiment été plus qu'au rendez-vous et c'est plutôt de bon augure avant les championnats du monde qui auront lieu à Hong Kong, donc du 21 au 28 juillet prochain. Je vous rappelle qu'il y aura de belles chances de médailles dans différentes disciplines. Et puis, avant de passer au football, évidemment, on a appris avec beaucoup de tristesse la semaine dernière le décès d'Éric Roy, l'entraîneur du Stade Brestois, qui s'est battu face à la maladie. Toutes nos pensées vont donc à sa famille et à ses proches.
Voilà donc pour ce journal des sports. Et puis concernant l'escrime, on a ramené tout plein d'interviews.
Tout à fait, on y reviendra plus largement.
Dans les prochaines semaines, on a beaucoup d'interviews à vous passer sur des événements qu'on a vécu. Puis on sera à l'athlétisme dimanche soir. Voilà. Allez, on va revenir donc sur le foot. Cédric, avant de commenter les résultats de la semaine, comment l'homme des arts martiaux se passionne pour le football?
Ah, c'est un débat très compliqué, ça. Je me suis passionné...
Corse, italien d'origine, non?
Corse, oui, bien
donc
sûr.
Donc déjà, il y a des gènes.
Exactement. Ouais. Et il y a beaucoup de clubs en Corse, et on est vraiment... C'est dramatique ce qui se passe dans le football corse en ce moment.
C'est encore plus dur.
Mais on va revenir. Ouais. On va remonter. Non, une passion pour un sport qui est très beau, très beau, parce que très difficile. Il y a quasiment rien de naturel dans le football. Jouer avec les pieds, avec la tête, c'est pas ce qui vient rapidement à ça. Donc moi, j'adore le côté technique et je m'y suis intéressé complètement par hasard suite à un pari qu'on avait fait avec ma belle famille. On pariait sur le résultat de la Coupe du Monde 98. Et celui qui trouvait le plus grand nombre de matchs...
Il se mariait, c'est ça? Non,
non, c'est presque ça.
Arrivé, hein, des fois.
Disons que toute la famille devait offrir un week-end à cette personne-là. Et moi, comme je suis un compétiteur dans l'âme, je me suis plongé dans des vidéos de football, de tout ce que je pouvais trouver. Et j'ai gagné ce pari. Et puis, du coup, je n'ai pas décroché. J'adore ça. Je suis les matchs, les vidéos sur Internet, tout, de plus en plus. C'est formidable.
Et les arts martiaux, alors, c'est la passion première, malgré tout?
Exactement, bien sûr. On continue l'entraînement, les cours. Voilà, ouais, ça reste bien sûr.
C'est quel type d'art martial?
Alors, moi, je viens de la boxe thaï. Je fais de la boxe thaï à la base, donc c'est ma spécialité. J'ai fait du MMA aussi. Et puis récemment, je me suis découvert le combat au sol avec la lutte à livrer, le jiu-jitsu brésilien sans kimono. Et ça m'a permis de reprendre la compétition aussi. Donc voilà, c'est un plaisir, les sports de combat. Et comme vous le disiez, une passion avant tout.
Il faut revenir en parler. Hein, dans
très volontiers. Très volontiers.
Voilà. Là, on revient au foot. Alors, en même temps, pour tout vous dire, on a la télé dans le studio, comme toutes les grandes radios. Et puis, c'est la mi-temps du match Argentine-Autriche. 1-0 pour l'Argentine pour l'instant. Hein.
C'est ça.
Et Messi a raté un pénalty.
Messi a raté un pénalty, mais il s'est rattrapé et a marqué.
Ah oui, d'accord.
Et il a marqué. Donc, 1-0. Mais dans un match assez ouvert, hein, tout de même. L'Autriche a des velléités offensives et montre des belles choses. Ils sont punis sur une action rapide, sur presque une contre-attaque de l'Argentine. Magnifiquement fini par Messi, du pied gauche, évidemment.
Pied gauche, contre-pied parfait. Et puis c'est là où c'est fort quand on regarde Lionel Messi en sélection par rapport à Lionel Messi en club. C'est vraiment pas le même homme. C'est pas le même joueur. C'est pas le même homme. Mmh. Il est partout, il est au four et au moulin, il aide au pressing, il est au départ et à la fin de l'action sur presque tous les buts qui ont été marqués avec l'Argentine sur cette Coupe du Monde. Donc, franchement, c'est très très fort. Et on est qu'à la mi-temps, donc j'ose espérer qu'il va se passer encore plus de belles choses, encore plus de belles choses.
Ça veut dire que pour vous, l'Argentine, il faudra compter dessus. Elle n'est pas surcotée, cette équipe argentine?
Ah non, clairement pas. Non. Sur le plan collectif, elle n'est clairement pas surcotée. En plus, elle a un avantage qui n'est pas négligeable en termes d'expérience pour la compétition. C'est que c'est une équipe qui est quasiment identique à celle qui était en place en 2022. Mmh. Excepté deux joueurs, c'est la même équipe, ce sont les mêmes joueurs, donc on a les mêmes automatismes. On a l'impression qu'ils ne se sont pas quittés sur le plan national par rapport à la Coupe du Monde 2022.
Oui, Pierre?
L'Argentine, oui, bien sûr, sera au rendez-vous. Maintenant, est-ce que c'est la meilleure équipe? Peut-être pas. Moi, je vois d'autres favoris. J'ai du mal à le dire, mais je vois bien l'Angleterre y arriver cette année.
Bien sûr. L'Angleterre
cette équipe
riche.
D'Angleterre qu'on cite toujours.
toujours placée, jamais gagnée.
Alors, c'est vrai qu'elle a joué deux finales quand même de l'Euro, sur les deux derniers Euros. Elle les a perdues, mais c'est vrai que l'Angleterre...
L'Angleterre a très bien débuté la compétition.
Oui. On va en parler d'ailleurs dans les résultats. C'est un des plus beaux matchs, c'est peut-être le plus beau match qu'on ait vu.
Peut-être.
Un des plus beaux quand même.
Un des plus beaux, oui.
C'était spectaculaire quand même, le Angleterre-Croatie. Alors justement, depuis la semaine dernière, on va revenir sur les matchs depuis qu'on s'est quitté. Hein. Et quand on s'est quitté, on a eu la Belgique qui a fait match nul contre l'Égypte 1-0. Vous en pensez quoi? Un partout, vous en pensez quoi?
Franchement, pour avoir vu le match, c'était terrifiant d'inefficacité de la part de la Belgique. Franchement, ils pouvaient jouer exactement comme ça pendant plusieurs jours qui n'auraient pas marqué un seul but. Je les ai trouvés inefficaces, sans solution sur le plan offensif. On avait l'impression que Rudy Garcia, comme seule consigne à ses ailiers, il leur a dit, vous savez, vous faites des centres ou des passes à Romelu Lukaku et vous laissez se débrouiller, parce que bon, on sait à quel point il est fort, il pèse sur la défense, en plus il a un bon jeu de tête, il est capable de jouer en pivot, oui d'accord, mais à un moment donné, si ton seul plan offensif c'est ça, tu ne risques pas d'aller loin. Même si Romelu Lukaku, toute grande légende du football belge qu'il est, vraiment, c'est vraiment le truc qui m'a le plus choqué, c'est le manque de solutions de cette équipe. C'est très compliqué. Et on parle que de l'Iran en face. Hein.
Parce qu'on va revenir sur le match qu'ils ont fait contre l'Iran, 0-0, mais en plus, il y a le contre l'Égypte, 1-1. C'est deux, j'allais dire, contre-performances de cette équipe belge. Hein.
Alors, contre-performance, pour le premier match.
Quand même.
Pour le premier match, un peu moins que le deuxième.
Ouais, parce que l'Égypte, c'est une habituée à de la CAN quand même.
Voilà.
Il y a quand même eu des belles choses.
Il faut parler devant le micro. Hein. On est à la radio, Vanessa.
Il y a quand même eu des belles choses sur le match Belgique-Égypte que j'ai pu regarder, notamment Lukaku. Bien sûr, après, vous qui allez pouvoir un peu plus préciser par rapport au passé de la Belgique.
C'est fini. Faut arrêter ça, faut tourner la page. Faut tourner la page. Vraiment,
je pense que c'est une équipe qui a du mal à se renouveler, à se reconstruire. Bien sûr. Ça fait quelques années quand même.
Bien sûr, bien sûr. C'est une génération dorée pour la Belgique.
Je vous pose une question à vous, les spécialistes. Comment vous expliquez que finalement, ils aient du mal à renouveler le vivier?
C'est un petit pays, la Belgique.
Puis bon, ils sont sur la fin d'une génération dorée qui a été exceptionnelle. Surtout tous les joueurs de ces équipes-là, je repense notamment à 2018, tous les joueurs de cette équipe, vraiment sur le 11, ils jouaient tous dans des grands clubs européens.
Ils nous en veulent toujours.
Et ils nous en veulent toujours.
À tort.
Oui, ils nous en veulent toujours. Mais voilà, au-delà de ça, je parle de 2018, on est en 2026, quoi. Kevin De Bruyne, il n'a plus le coup de patte qu'il avait avant. Romelu Lukaku, ok, on connaît ses points forts, mais ça commence à être de plus en plus compliqué parce que l'âge monte et c'est normal. Et derrière, bon, bah, c'est un petit pays, il y a des bons petits joueurs qui sortent. Charles de Ketteler, Maxime de Kuyper, ce sont des bons noms. Alexis Selmakers, il y a un autre que j'attends aussi de pied ferme, c'est Nathan De Kat, qui fait partie des meilleurs prospects du football belge. Mais voilà, c'est compliqué, mais c'est normal que ce soit compliqué d'un autre sens parce que bah, la Belgique, c'est un petit pays.
Oui, Pierre, la Belgique, ça va être compliqué pour eux.
L'anomalie, c'était la Belgique 2018.
Bien sûr,
C'était pas représentatif de la Belgique. Maintenant, ça va être difficile pour eux. Bon, ils vont faire toutes sortir des poules quand même parce qu'ils jouent le 3 dernier match contre la Nouvelle-Zélande.
Bon, c'est le meilleur troisième, Mais enfin, bon, ils ont fait.
Je vois pas sortir pour autant. C'est juste qu'il va falloir qu'ils se mettent à marquer parce que sinon, même parmi les meilleurs troisièmes.
Ils vont être quand même parmi les meilleurs troisièmes. Tu les vois sortir quand même parmi les meilleurs troisièmes.
Oui, parmi les meilleurs troisièmes. Et encore.
Mais après, ça va être difficile pour les 16e et même pour les 8e. Hein. Ça sera le maquis.
Après, la Belgique n'est pas au niveau d'une phase finale de Coupe du Monde.
Mais non, clairement pas.
Le carton rouge qu'ils prennent aussi sur cette erreur.
Oh là là.
On sent la fébrilité de cette équipe rien que sur ce carton. On a senti la fébrilité de ce 11. On entend une magnifique mélopée.
C'est un petit peu de fantaisie.
C'est très agréable.
Le petit manque d'attention, on l'a retrouvé chez Nathan Ngoy hier.
Je souhaiterais juste vous préciser un petit truc qu'on n'a pas dit sur Léo Messi tout à l'heure. Qu'il dépasse Klose.
Oui, c'est vrai.
Le même soir qu'Mbappé, on va en parler, il a marqué 3 buts dans le match. Ouais. Mais voilà, il dépasse le 2.
Et là, ça y est.
C'est officiel, il dépasse le 2.
Ça y est, puisqu'il vient de marquer. Alors, ensuite.
J'aimerais bien dire un mot sur l'Iran.
Oui, il y a des choses à dire sur l'Iran.
Il y a des choses, c'est une Coupe du Monde de l'inéquité.
Ah oui, tout à fait.
Non, mais c'est la première fois qu'on impose à des joueurs une position géographique. C'est-à-dire on les exclut, ils peuvent aller aux États-Unis que le jour du match, et il faut qu'ils partent à midi et puis qu'ils reviennent le soir. C'est totalement, c'est de l'inéquité, et malgré tout, ils arrivent à faire des bons matchs.
Tout à fait d'accord.
C'est parce qu'il les motive aussi.
C'est proprement injuste, et une grosse inéquité sportive, je suis d'accord.
Alors, donc, Arabie Saoudite-Uruguay. Quelqu'un a vu ce match en personne?
C'est bien quand même. C'était un chouette match.
J'ai écouté.
C'était cool ce match. C'était sympa.
C'était un chouette match. Il s'est passé pas mal de choses. On a eu 2-2, je crois, score final.
Un partout. Le 2-2, c'est le match qui a suivi. L'Iran et la Nouvelle-Zélande.
Exactement.
Et tu vois, Pierre, donc ça en vient à ce que tu dis quand même. Iran 2-2 contre la Nouvelle-Zélande.
Oui.
Donc, je
pense qu'avec s'il n'avait pas été obligé de faire tous ses déplacements, je pense qu'il aurait battu la Nouvelle-Zélande. Le même niveau.
Tout à fait.
Pour revenir sur Uruguay-Arabie Saoudite, comme souvent, l'Arabie Saoudite est une équipe assez rafraîchissante à voir en Coupe du Monde parce qu'elle arrive à quand même embêter tout le monde, même si l'Uruguay n'est pas vraiment.
Hier, ils ont pas posé
n'est pas
mieux.
N'est pas vraiment au niveau, malheureusement, mais. L'Uruguay aussi, après avoir égalisé, donc ils ont vraiment galéré, ils ont ramé pour égaliser, mais ensuite ils sont tombés sur un très 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 grand gardien. Vraiment, l'Arabie Saoudite a fait que reculer et était à deux doigts de s'effondrer. Mais l'Uruguay, ça va être compliqué de sortir même de ce groupe au final quasiment parce que ils ont encore fait un match nul.
Devant Curaçao, 0-0.
Oui, il y a eu ce match 0-0 contre Curaçao et effectivement le match nul contre Arabie Saoudite.
Ouais, ouais, ouais. Alors, on a oublié quand même parler.
Ils ont fait 2-2 contre le Cap-Vert.
Cap-Vert, oui.
Ah, non,
2-2 Cap-Vert.
Il y a un 0-0, on va en reparler.
Oui, ça c'est dans le groupe de l'Espagne.
Équateur Curaçao.
C'est Équateur Curaçao, voilà. Équateur Curaçao, 0-0.
2-2 Uruguay, Cap-Vert.
On va en reparler.
J'avais raison pour le score, pas pour l'équipe.
C'est un bel exploit.
Il y a tellement de matchs aussi.
Ouais, c'est ça. On n'a pas parlé de la victoire de la Norvège devant l'Irak. Justement 4-1, donc la Norvège, c'est l'équipe qu'il va falloir vraiment affronter.
Une belle victoire sérieuse des Norvégiens, on les attendait. Et encore une fois, moi, ce que j'ai vu de ce match, c'est que l'Irak jouait quand même au football, vraiment.
Ah bon ?
À tel point que, justement, ils peuvent aussi s'exposer. Et ça pourrait être une des clés de ce match de ce soir, c'est qu'ils cherchent aussi à attaquer. Et donc, là, pour potentiellement, la présence d'un Barcola pourrait être aussi préférée à Doué, justement, pour sa vitesse dans les contre-attaques. Donc, ça pourrait être une des clés du match. Et le score 4-1 est assez quand même sévère aussi pour l'Irak.
Non, parce qu'il y a 2-1, il y a 2-1 à la mi-temps.
C'est
2-1
à la mi-temps, tout à fait.
Alanda a marqué dans ce match.
Évidemment, l'inévitable.
Ouais. Le cyborg.
Ouais, alors, on en reparlera avant l'avant-match de vendredi entre donc, la France et la Norvège. Mais est-ce que la Norvège, ça joue pas trop que pour Alanda ?
Non, je suis pas d'accord.
Est-ce que la clé du match, c'est pas Alanda ?
Pas forcément, parce que l'équipe norvégienne a quand même pas mal de bons joueurs pour jouer autour.
Hein. Je me fais un petit peu provoquer.
Bien sûr. Ouais. Mais non, il y a pas mal de noms qui ressortent. Hein. Je pense à Sorloth, je pense à Odegaard.
C'est quand même une belle équipe.
C'est une belle équipe.
Qui s'est jouée ensemble. Mais en effet, oui, ça reste quand même.
Ils sont guidés comme
majeur, évidemment, parce que ça reste Haaland et donc il marque quasiment tout le temps à tous les matchs. Je crois qu'il a d'ailleurs, avec la Norvège, il me semble qu'il a un ratio positif en termes de matchs. Il marque plus qu'il n'y a de matchs.
Tout à fait.
C'est assez dingue. Et deuxième pénalty pour Messi.
Ouais, voilà, au passage,
pour l'instant là.
On est à la 50.
Le fil rouge de l'émission de ce soir.
Non, c'est pas un pénalty.
Ah non, pardon, c'est un coup franc. J'ai cru avec la caméra et le positionnement. Pardon. J'étais en train de parler, j'avais pas vu. J'ai juste vu Messi poser la balle avec la caméra.
Et il est très très bien placé. Il est loin, mais il est bien placé.
Il y aura peut-être un beau coup.
Ouais, la touche est morte.
Directement, il a fait la louche. Donc toujours 1-0 pour l'Argentine devant l'Autriche. 52e minute. Justement, l'Argentine qui avait écrasé sur le match précédent l'Algérie 3-0.
Vraiment, il n'y avait pas match.
Décevante l'Algérie ?
Oui, vraiment décevante sur le plan collectif. Les trois buts encaissés, en plus, ce sont des beaux buts. Mais il y a une part aussi où la défense, elle a mentionné la défense, l'axe défensif algérien est vraiment à pointer du doigt. Je ne sais plus si c'était quel but, je crois que c'était le premier ou le deuxième, l'un des deux, où vraiment Lionel Messi récupère le ballon et l'initiative de la contre-attaque. Et
c'est là qu'il a marqué d'ailleurs.
Et c'est là qu'il marque sur une sacrée frappe de loin. Mais
c'est le premier but.
Justement, non seulement la frappe est belle, mais surtout quand on regarde la manière dont les Algériens ont essayé de défendre sur une émission, on a l'impression de voir deux gardes du corps plus que deux défenseurs. Et c'est là où vraiment ça a été choquant de se dire, Lionel Messi, c'est pas comme si c'était le jeune Pedro de 17 ans qui vient faire son premier match de Coupe du Monde. Non, on connaît Lionel Messi, la manière dont il est capable de marquer lorsqu'il prend de la vitesse, qu'il se positionne sur son pied gauche et qu'il arrive à tirer. Faut aller sur lui, en fait. On le connaît depuis 2005, l'homme. C'est là où vraiment j'ai été très déçu. Et puis, le gardien, je suis désolé, Lucas Zidane, il a fait un match extraordinaire. Merci beaucoup pour les travaux juste avant la Coupe du Monde. Mais il n'y a pas le niveau pour être le gardien titulaire d'une sélection comme l'Algérie.
Ouais, puis l'Algérie, ça va être difficile d'aller très loin.
C'est difficile d'aller loin, mais le groupe n'est pas fini. L'Algérie, c'est pas la Tunisie. Hein. L'Algérie, il y a du caractère.
La Tunisie, c'est pratiquement.
La Tunisie, c'est terminé.
L'Algérie, c'est pareil, un 16e après au-delà d'un 16e, ça va être compliqué. Ça dépend sur qui tombe peut-être.
Ça dépend sur qui tombe et comment le tirage au sort se fait parmi les meilleurs 3e. Mais c'est pas non plus, tout n'est pas à jeter pour autant à l'heure actuelle sur le plan comptable, je précise. Et puis on sait à quel point les Algériens, ils ont du caractère, ils ont du répondant, ils veulent pas rester sur une note aussi négative. J'attends d'eux à ce que ça se passe mieux sur le terrain face à la Jordanie, si j'ai pas de bêtises.
Oui. Voilà. Alors justement, la Jordanie qui avait été battue par l'équipe qu'on est en train de voir contre l'Argentine 3-1. L'Autriche donc qui avait battu la Jordanie 3-1. Vous en pensez quoi de cette équipe autrichienne qui est en train justement de, pour l'instant, d'être cette monnaie et qui a été à deux doigts de, ouais, à deux doigts de pouvoir relever le score. Ouais. Il y a une belle parade du gardien donc, de l'équipe Martinez. Ouais, Martinez, notre ami Martinez, justement.
Le fameux.
Ouais, ouais, le fameux Martinez.
Encore de la rancœur.
Donc,
non, mais c'est. Qu'est-ce
que vous en pensez de cette équipe?
Bah, l'équipe autrichienne.
Que l'équipe de France l'avait d'ailleurs joué et battu à l'Euro. Hein. J'étais au match. Hein, donc,
certes, ça, certes, ouais. Mais mine de rien, l'équipe autrichienne, c'est pas une équipe qu'on va mettre parmi des favoris ou sur un parcours extraordinaire, mais c'est une équipe qui est très expérimentée sur les compétitions officielles. Ouais. Et elle est dure à jouer parce qu'il y a pas mal de joueurs qu'on peut citer. Déjà, la plupart jouent en Bundesliga, donc ils savent jouer rapidement, notamment sur les contre-attaques. Ils sont très, très doués là-dessus. Il y a une dimension physique qui est particulièrement élevée dans cette équipe. C'est vraiment pas facile de bouger l'Autriche, hein, que ce soit à l'Euro ou en Coupe du Monde. C'est une équipe qui est expérimentée et qui sait gérer les grands événements. Donc, et c'est pour ça aussi qu'il n'y a que 1-0, parce qu'il y en a beaucoup qui disaient bon, bah, l'Argentine peut aussi faire un carton face à l'Autriche. Je dis non, non, c'est pas vrai. L'Autriche à la maîtrise de l'événement c'est pour ça qu'il n'y a que 1-0 parce que c'est une équipe qui est difficile à jouer.
Ouais, enfin on a vu des briefs de match, apparemment l'Argentine a dominé quand même, non? Non, sur ce qu'on a vu le peu, non? Non, non.
Sur dominé dans la conservation du ballon et dans les phases offensives, mais
là, par contre c'est un temps fort autrichien.
Voilà. On peut s'attendre à ce que l'Autriche ait du répondant. C'est pas une équipe qui va jouer pendant 90 minutes à 10 dans sa surface. Non, non, c'est une équipe qui a du répondant, il y a pas mal de joueurs qu'on peut citer. David Alaba qui est toujours présent, Konrad Leimer, le joueur du Bayern Munich, Marcel Sabitzer aussi passé par Dortmund et le Bayern, Gregoric.
C'est une équipe à prendre au sérieux.
Oui, c'est une équipe à vraiment prendre au sérieux.
Ils sont tout le temps là dans les Coupes du Monde, dans les Euros. On les connaît, ils sont quand même assez compliqués à jouer, tu l'as très bien dit. Donc c'est une équipe à prendre au sérieux. Voilà.
Tout à fait.
Mais attention, parce que ça fait un petit moment qu'ils ne sont pas venus en Coupe du Monde. Donc ils sont très motivés parce que c'est leur retour. Et
oui, tout à fait.
Ils ont peut-être un petit peu plus de, voilà, de, bah, d'élan et d'envie. Ouais.
C'est un pays de ski, mais bon. Le foot, là, le développement, c'est bien.
C'est un bon pays de football, l'Autriche.
Ils n'ont pas gagné grand-chose, les Autrichiens.
Ça joue bien au football.
Quand même, hein.
ça joue bien au football. Ouais, ouais. Le ski, c'est intouchable, mais ça joue bien au football. Quand même.
Pierre.
Bah, c'est une équipe, je dirais, de second rang. Une équipe solide. Qui peut passer en deux tours. Après, ce sera là, les marches seront trop hautes.
Ouais, c'est ça.
Mais
c'est ça.
Un quart de finale, c'est pas impossible.
Quart de finale. J'aime ce genre de pronostic.
Ouais, c'est pas un pronostic, mais c'est.
Un spoiler.
C'est un spoiler. Il a été dans le futur.
Ouais. Bon, alors après, pour remonter les matchs qu'il y a eu, le 17 juin, le mercredi, Portugal, Congo, un partout.
Incroyable ce Congo.
Grosse déception.
Incroyable ce match. J'étais aussi fasciné par le Congo que déçu par le Portugal.
Même chose.
Le Portugal ne fait pas ce que fait l'Argentine pour Messi, ne fait pas ce qui est ça avec Ronaldo. Et on sent qu'il y a une rancœur. On a vu les déclarations de Neves aussi.
C'est terrible.
Et c'est terrible. Deux personnalités qui ont toujours été clivantes, Ronaldo et Messi, l'éternel débat. Et on le voit encore là dans les équipes nationales, où là tout le monde est au service de Messi dans l'Argentine. Et alors que c'est presque l'inverse au Portugal. Il y a vraiment je pense qu'il y a une certaine rancœur envers Ronaldo de la part de ses coéquipiers.
Il y a un vrai problème. Il y a un problème Ronaldo à régler. Je ne sais pas si c'est de la rancœur ou quoi que ce soit. Mais à 41 ans, on ne peut pas être titulaire en Coupe du Monde.
Oui, voilà.
D'après toi, on l'appelle en Coupe du Monde alors qu'on ne devrait pas.
Peut-être pas quand même. Jouer 20 minutes.
Oui, c'est vrai. Plutôt dans ce sens-là.
Il peut, mais toute la pour 90 minutes, c'est pas possible.
Déjà, on se rappelle qu'en 2022, Ronaldo, il sautait déjà moins haut, il courait déjà moins vite, il était déjà moins.
Et l'âge qui monte, tout simplement, l'âge qui monte. Mais même là, je veux dire, c'est là où honnêtement, je trouve injuste ce qui se passe du côté du Portugal. C'est que vous l'avez très bien rappelé, Cédric, tout à l'heure, par rapport à João Neves, c'est une tempête dans un verre d'eau. João Neves n'a pas manqué de respect à Ronaldo. Il lui a dit, c'est un joueur important de l'effectif. En gros, c'est un joueur important de l'effectif, mais c'est un joueur comme un autre parce que nous sommes tous, dans le sens où nous sommes tous dirigés uniquement vers le but ultime, remporter la Coupe du Monde. Je veux dire, mais il y a aucun manque de respect envers Cristiano Ronaldo dans cette phrase. Et d'ailleurs, pour aller encore plus loin, après lui, c'est Francesco Conceição qui lui aussi a fait une déclaration toujours dans le même sens, pour dire que voilà, Cristiano Ronaldo c'est une légende de notre équipe, mais on tire tous dans le même sens, on est tous dans le même bateau, on veut aller chercher tout tous ensemble cette Coupe du Monde. Lui aussi, il a pris une vague de cyberharcèlement qui est absolument déplorable, venant de la part de fans de joueurs, parce que c'est ça aussi le problème, c'est que ce sont des fans de Cristiano Ronaldo, ouais, plus que des supporters du Portugal, qui ont été pourrir les réseaux sociaux de ces deux joueurs, alors que ce sont deux joueurs très importants dans l'effectif. Pour rester dans le sportif, ce sont deux joueurs très importants. João Neves, au milieu, il est indéboulonnable, et Francisco Conceição, c'est un joueur en sortie de banc qui peut faire énormément de bien. Il a une sacrée qualité technique sur le côté droit, et c'est dommage de les pourrir sur le plan mental comme ça.
Et là, on est sur le fait que c'est les réseaux sociaux qui prennent le pas. Quand on parle du Portugal, là, on parle des réseaux sociaux, on ne parle pas du match.
Exactement.
On parle pas du match, qui était très moyen.
Ouais,
très
moyen. C'est vraiment un manque de solutions. Hein.
Ouais. Ouais. Il n'y a pas de quoi être inquiet quand même, ça va s'améliorer au Portugal.
Je pense pas.
Ah bon ?
Honnêtement, je pense pas.
Ah ouais ?
Parce que...
Donc des matchs nuls, des contre-performances comme ça, il risque d'y en avoir d'autres ?
Je pense oui. aussi. Je pense oui. Pourquoi ? Parce que, vous savez, quand vous donnez... J'adore utiliser cette image. Quand vous donnez les clés d'une Ferrari à un cul de jatte. Voilà. Voilà. C'est vraiment... Je pèse mes mots en ce qui concerne... Non. Je pèse mes mots en ce qui concerne Roberto Martinez, le sélectionneur portugais. C'est vraiment... C'est
là,
lui que...
Des insultes, des joueurs,
si non. Là, c'est pas... Là, j'utilise cette expression à bon escient parce que Roberto Martinez, il a une génération exceptionnelle à sa disposition et il n'en fait rien ou presque.
Et il n'est pas à son coup d'essai parce qu'avec la Belgique, c'était déjà ça. Hein.
Et c'était déjà ça avec la Belgique, tout à fait. Et moi, je trouve ça déplorable de se dire qu'en fait, il y a une équipe qui est forte, qui a envie, qui est jeune, où la plupart des joueurs jouent dans de superbes équipes, dans des grandes équipes européennes. Lorsqu'ils se retrouvent au Portugal, on a l'impression que c'est la chape de plomb sur tous ces joueurs. C'est contrôle passe, c'est compliqué sur le plan mental, c'est compliqué sur le plan technique, et vraiment c'est terrible. C'est en ça aussi que je me dis que le Portugal, je ne les vois pas aller aussi loin que ce qu'on pense, alors qu'ils ont une équipe de dingue.
Mais il y a une info qui est sortie concernant justement le sélectionneur portugais, comme quoi il y aurait un conflit d'intérêt qui le pousserait à garder Ronaldo, puisqu'il il aurait déjà signé un contrat en Arabie Saoudite,
le club de Cristiano Ronaldo.
Donc c'est ça qui le pousserait, et donc forcément on comprend mieux, à conserver Ronaldo dans le 11 pour pouvoir par la suite faire sa place dans le championnat saoudien.
Voilà, et c'est un vrai conflit d'intérêt, oui.
Et pour rejoindre ce que tu disais, c'est vrai que quand on voit le milieu du Portugal, est-ce que j'ai besoin de parler de Neves, de Vitinha ici,
Bruno Fernandes, meilleur passeur de Première Ligue,
et quand on voit ça, on se dit mais comment c'est possible de ne pas créer un esprit d'équipe ? D'où le débat qui revient souvent aussi, c'est qu'il ne suffit pas d'aligner des bons joueurs pour avoir une équipe, c'est qu'il faut un collectif. Et là, le collectif a du mal. Alors, est-ce que c'est la faute à Ronaldo ? Est-ce que c'est la faute au sélectionneur ? Est-ce que c'est les deux ?
C'est plutôt là que la question devrait se poser, en effet.
Pourquoi le collectif n'arrive pas à devenir un vrai collectif ? Parce qu'avec les éléments techniques qu'on a dedans, moi, le Portugal, je le dis franchement, c'est un Portugal qui me fait peur.
Bien sûr.
Parce qu'il suffit qu'ils trouvent cette petite étincelle.
Ah bah, ils sont quand même parmi les équipes qu'on ressort régulièrement comme favorites. Hein.
Bien sûr. Mais s'ils ont une petite étincelle et qu'ils trouvent leur voie, ça risque de faire très mal.
Bien sûr. Mais le problème, c'est qu'il faudra se dépêcher parce que là, on a eu l'Euro, on a eu la Ligue des Nations. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Ils ont été chercher quand même le trophée de la Ligue des Nations. Il n'y a pas de problème avec Cristiano Ronaldo, qui plus est. Mais les mots n'ont pas été réglés, les mots internes n'ont pas été réglés pour autant vis-à-vis de la présence de Roberto Martinez sur le banc. Donc, c'est pour ça qu'en soi, moi, j'ai très peur pour le Portugal. Même si, bon, sauf catastrophe absolue, il se fasse éliminer en phase de poule. J'ai peur pour la suite de la compétition. Il y a quelques fans portugais qui sont pas loin de se dire nous, on est peut-être. Je me demande si on n'est pas en train de vivre notre Nice Na 2010.
Ah oui,
clairement. Vous voyez, parce qu'ils sont pollués par le contexte médiatique qui est extrêmement pesant. Ils sont pollués par la pression imposée par le. Voilà, il y a Cristiano Ronaldo, il fait sa 6e Coupe du Monde, il faut faire quelque chose pour lui. Déjà, rien que ça, moi, ça me.
La comparaison est très bonne avec Nasser.
Mais oui, c'est vraiment, ils sont dans. On ne parle plus de sportif. Voilà, comme vous l'avez dit, on ne parle plus de sportif. On ne parle que des côtés.
Il y a quelque chose de très très malsain au final avec cette sélection, alors qu'elle a vraiment des très 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 bons éléments. Et cette question de Cristiano Ronaldo va polluer tout leur mondial, quoi qu'il arrive.
Oui,
même s'ils sortent en quart de finale, on reviendra sur cette question de est-ce qu'il aurait pas dû être là, est-ce qu'il aurait dû sortir. Et ça va les polluer pendant tout le mondial. Et je pense que dans le vestiaire, ça pèse, à mon avis, énormément. Oui. Parce que bon, Cristiano Ronaldo, c'est Cristiano Ronaldo, et qu'on le veuille ou non, je pense qu'il aura un poids et une voix beaucoup, beaucoup plus forte dans le vestiaire, et c'est ce sera comme ça tout le temps. Donc,
Et c'est ça qui est terrible, en
c'est
fait.
C'est assez compliqué. Hein.
On se rappelle de ces images de cette finale de l'Euro perdue où il était blessé, il était sorti.
Il était coach.
Il était coach, quasiment.
En plus, ça avait réussi.
Mais ça date de 10 ans.
Voilà, c'est ça. Exactement.
Oui, mais ça montre quand même encore tout le...
Le Cristiano Ronaldo, il y a 10 ans, était très bon sur le terrain.
C'était le danger numéro 1.
Et là, maintenant, c'est plus le cas.
Et je vous dis, déjà, depuis 4 ans, depuis le Mondial de 2022, il était assez controversé en se disant,
même 2020.
On pensait même que c'était d'ailleurs sa dernière Coupe du Monde. Hein. On ne pensait pas qu'il partirait en 2026. On avait dit à peu près pareil pour Messi aussi.
En 2018 aussi, quand il avait mis le triplé, tout le monde n'était pas renterré. Il disait, non, mais c'est sa dernière Coupe du Monde et tout et tout. Et puis bon.
C'est quand même dur, surtout qu'ils ont fait une performance vraiment terrible contre le Congo, qui a fait son match. Normalement, sur le papier, après on peut dire ça de tous les matchs de football, mais sur le papier, normalement, il n'y a quand même pas photo. Et certains se cachent un peu derrière justement ce problème de Ronaldo, parce que franchement, certains matchs, notamment au Bernardo Silva, c'est l'ombre de lui-même, et on n'en parle pas, parce que justement, il y a cette problématique Ronaldo, Pedro Neto n'est pas assez bon. Un Vitinha a été potentiellement beaucoup trop stéréotype dans son jeu, c'est-à-dire beaucoup de passes latérales et moins aller chercher directement quelque chose. Enfin, en tout cas, Roberto Martinez a du travail.
Voilà. Il a beaucoup de travail.
Beaucoup de travail. Et est-ce qu'il a les épaules? Moi, je pense pas.
Voilà, donc au final,
on est d'accord depuis le début.
Vous avez hurlé sur mon expression, mais effectivement.
Mais en fait, j'ai peur que tu l'utilises pour Ronaldo, c'est pour ça
non,
que je
dis. Non, je me permettrai pas.
Attention.
Si blé le sélectionneur, uniquement lui.
Bon, Angleterre-Croatie 4-2, c'est un des plus beaux matchs de ce mondial.
Oui. Superbe, avec des Anglais au top niveau. Les Croates, comme un peu vieillissants. Un peu vieillissants, mais les Anglais qui proposent un super football, quoi. Et puis Harry Kane qui marque, quoi.
Le chat noir, si on fait son année.
On ne sait pas. À mon avis, le seul risque, c'est que le chat noir revienne. Quoi, parce que moi, je vois vraiment l'Angleterre à l'eau.
Et puis, un point aussi ajouté par rapport à l'Angleterre, c'est le rôle d'Harry Kane. Vous avez bien fait de mentionner son nom. Harry Kane, il s'est comporté comme un Dembélé en Ligue des Champions avec le PSG. C'est-à-dire qu'au lieu d'être le numéro 9 qui va attendre qu'on lui envoie le ballon, non, il a décroché, participé au jeu, envoyé la contre-attaque, et ta première, la deuxième passe. Vraiment, c'est très fort.
Je me rappelle même de lui qui tacle en sacrifice dans la surface pour contrer une frappe, alors que c'est un peu moment chaud et justement temps fort de la Croatie. Donc vraiment, exemplaire, son comportement exemplaire. Et il pourrait, c'est un joueur extraordinaire qui, aussi, pour toute sa carrière, mérite d'avoir des moments comme ça, parce qu'il a très souvent été, notamment à Tottenham, où il n'a rien gagné, malheureusement. Et il mérite d'avoir ces trophées-là.
Enfin, l'armoire à trophées se remplit depuis sa signature Bayern.
Donc notre ancien ami du PSG.
Pour l'instant, on peut pas lui tomber dessus. Il a fait des choix forts.
Réussite,
Et son équipe, on l'attendait au tournant. En plus, c'était quand même pas facile, parce qu'on l'a dit, la Croatie, c'est une belle équipe, même si elle est aussi en fin de cycle. Et ils ont livré une très belle copie. L'Angleterre a été sincèrement éblouissante. Et j'ai qu'une envie, c'est presque de les revoir jouer, parce que franchement, ils ont été impressionnants, et sans doute, vous avez dit, presque un des plus beaux matchs pour l'instant de la compétition.
Déjà 6 buts, puis des beaux buts, puis un match spectaculaire quand même.
Et il y a quand même des individualités assez fortes, même s'il prend pas des Foden, des Maguire.
Il a fait des choix forts.
Le match de Bellingham aussi est monstrueux. Bellingham est un magnifique joueur.
Fou et remoulin.
Donc ça met l'eau à la bouche.
D'ailleurs, on parlait du début de Coupe du Monde. C'est vrai que dans l'ensemble, on a des beaux matchs quand même. On a des équipes qui veulent jouer. Mais ça, c'est assez fréquent dès les premiers tours de Coupe du Monde. Après, ça se tasse un petit peu parce que naturellement, les matchs à élimination directe, on prend un petit peu moins de rythme. Mais c'est vrai qu'on a des équipes quand même qui sont portées du jeu et qui veulent jouer.
Mais je pense que pour Harry Kane, son passage là au Bayern lui fait énormément de bien. Parce qu'il évacue justement toute cette pression qu'il pouvait y avoir à Tottenham. Et concernant Tourelle, moi, c'est un entraîneur que j'aime beaucoup. J'aimais bien déjà le travail qu'il avait fait à l'époque à Paris. Et il a prouvé quelques années après en prenant la Ligue des Champions avec Chelsea. Et je pense que ce qu'il fait là, en faisant ses choix forts, en se passant de certains joueurs, il a réussi à faire ce dont on parlait tout à l'heure, à créer un collectif et à donner toute sa dimension à Harry Kane. Très beau match, très beau match. J'ai eu un petit peu plus de peine pour Modric, parce qu'on sent que...
Modric, c'est la compète de trop.
On sent que là,
physiquement, c'est la compète de trop.
C'est la compète de trop, mais après, lui, il a vraiment... C'est un pilier dans son équipe. Et
c'est un demi-dieu dans son pays.
Et c'est Guardiola aussi, Guardiola, que j'étais un petit peu déçu. Je l'ai trouvé un peu en dessous dans ce match-là. Mais après, le match restait super. À la mi-temps, c'était difficile de pouvoir donner vraiment un vainqueur.
Tout à fait.
Bellingham qui a fini c'était vraiment très bien.
Si je peux revenir sur quelque chose, c'est que selon moi, les cadres sont vraiment au rendez-vous. Et on parlait donc pour l'instant du début un petit peu raté de Ronaldo. Mbappé doublé, Messi doublé, encore un but. Et Kane qui marque aussi, donc c'est pour ça, ça va être une vraie course pour le meilleur buteur.
Mondial,
ça va être... C'est assez haletant. Il y a des buts, même les petites équipes font des vraies surprises, donc Cap-Vert, Curaçao...
Cap-Vert, Curaçao, les petites équipes, elles essayent toujours de briller sur les premiers tours. Elles
complètement,
pas loin, mais c'est bien. Bah, justement, les petites équipes, Ghana, Panama, 1-0, quelqu'un a vu le match?
Non.
Il était compliqué à regarder. Il était compliqué à regarder.
Pas grand monde.
Ah, Marius, il voit tous les matchs.
C'est pour ça qu'il est malade. Il est trop fatigué, il dort plus du tout la nuit. Ouais.
Alors, Marius, faut que tu dormes, et puis après, tu.
C'était un match compliqué. Ghana-Panama, le Panama qui était.
Dans les arrêts de jeu, à la toute fin.
Contre le cours du jeu, en plus. Puisque le Panama a dominé globalement la rencontre, sans marquer, malheureusement pour eux. Donc, non, compliqué ce match.
Et puis, l'Ouzbékistan, battu par la Colombie 3-1.
Ouais, et attention à l'Ouzbékistan, même s'ils ont perdu face à la Colombie, l'Ouzbékistan, ça a une petite vibe de petite équipe qui peuvent embêter un maximum les équipes avant de pouvoir passer à la suite. Ils ont perdu 3-1 face à la Colombie, mais ils ont quand même marqué un but.
Premier but pour eux d'ailleurs.
Premier but pour eux de l'histoire en Coupe du Monde. Il y a quelques noms qu'on peut citer, Kouzanov notamment, comme étant le leader de la sélection, le défenseur central de Manchester City.
Passé par Lens d'ailleurs.
Alors ce match-là, je l'ai un peu moins vu. je vous cache pas que c'était compliqué.
On peut pas tout voir,
mais j'ai quand même vu quelques bribes.
Place, rassurez-vous, ils voient pas tout.
C'est clair.
Entre les aéroports, les entraînements,
le nombre de vols absolument ahurissant.
La logique a été respectée.
La Colombie, on connaît, c'est un pays de foot.
C'est une belle équipe.
Ça reste une belle équipe emmenée par Luis Diaz.
L'Ouzbékistan va rencontrer le Portugal justement. Est-ce que le Portugal va se libérer, c'est ça qui est intéressant.
Portugal malade face à un Ouzbékistan qui n'a rien à perdre, ça peut donner quelque chose de très intéressant sur le terrain.
Ça va donner quelque chose de très intéressant. Dans un sens ou dans l'autre, mais il va vraiment se passer quelque chose.
Il faut un déclic.
On peut même pas dire que contre le Congo, ils se soient fait surprendre par une équipe congolaise qui marque en premier puis ensuite met le but parce qu'ils ont marqué directement en 6 minutes. On s'est dit oh c'est parti, Neves de tête, c'est parti.
On se dit, ils sont ralentis, donc
à voir, mais c'est vrai que ça peut ressembler, ça pourrait ressembler, là c'est du foot fiction, à un match de la peur presque, si jamais ça se passe mal au début, ou si justement ils n'arrivent pas à marquer en première mi-temps. Attention.
Alors, Tchéquie, Afrique du Sud, un partout.
Sans intérêt.
Il n'y a pas eu de.
Non, mais c'est vrai.
L'Afrique du Sud qui avait été largement battue par le Mexique, ils se sont pas révoltés, quoi.
Difficile de voir.
Puis la Tchéquie, ça n'a rien d'extraordinaire.
Ouais, certes, mais c'était pas un match à retenir globalement dans le contenu. C'était deux équipes relativement faibles dans le contenu proposé. L'Afrique du Sud qui s'est quand même remise dans le sens de la marche avec ce but, mais c'est pas le meilleur match du mondial pour le moment.
On parlait de la Bosnie-Herzégovine, très défensive la semaine dernière. Là, elle a été battue 4-1 par la Suisse quand même.
Là,
la défense a explosé.
Ouais, mais le schéma, il était bizarre parce que pendant quasiment 75 minutes, on était à 0-0 et puis ça a complètement explosé de toutes parts pour finir à 4-1. Doublé de Johan Manzambi, qui est le tube de l'été côté Suisse. C'est un joueur qui est au four au moulin au milieu. Il lance les contre-attaques, il les termine. Il embarque l'équipe avec lui. En plus, il est jeune. La Suisse a fait une très très bonne fin de match.
Ils étaient à 10 aussi la Bosnie.
Ils étaient à 10 la Bosnie, tout à fait.
Ça aide aussi. Ils avaient plutôt intérêt à se remettre en selle la Suisse parce que le premier match contre le Qatar, un partout.
C'était un accident, une catastrophe industrielle.
Et donc, alors justement, le Qatar, ils ont pris 6-0 devant le Canada. Enfin, les Canadiens ont été réalistes et efficaces. On avait parlé de leur manque d'efficacité.
Première victoire de l'histoire de la sélection en Coupe du Monde.
La semaine dernière, enfin.
Là, il y avait 3, 4, 150 classes d'écart.
Il s'est passé beaucoup de choses aussi avec un carton rouge. Deux cartons rouges, un premier carton rouge récolté assez rapidement. Le deuxième qui est absolument effroyable. La faute du joueur qatarien sur Ismaël Koné qui finit la jambe gravement blessée, fracture tibia péroné. Donc, fin de mondial et on le revoit pas avant 6 mois sur un terrain de foot au minimum, donc à 11 contre 9 il y avait déjà 3-0 à ce moment là les Canadiens ils ont décidé d'appuyer encore plus sur l'accélérateur, ils ont terminé à 6-0 d'ailleurs. Il y a une info qui est arrivée le lendemain concernant les Qataris qui se plaignaient des Canadiens pour avoir accéléré.
Ils auraient pu être sympas quand même.
Ouais, c'est bon, il y a déjà. Voilà, c'est bon, 3-0 ou 6-0, ça change rien. C'est bon, vous avez déjà battu, c'est bon. Vous n'auriez pas dû. Non, les gars, c'est un match, ça se joue à 80 minutes, on respecte
les Canadiens. C'est bien pour les Canadiens.
Et puis, ils avaient évidemment raison parce qu'il faut aussi soigner cette différence de but au cas où pour la première place. Donc. Ils ont eu vraiment raison d'accélérer. Donc
bien sûr. On respecte une équipe jusqu'au bout.
Alors, un match intéressant, c'est le Mexique contre la Corée du Sud. 1-0 pour le Mexique, qui, on dit, avait commencé en fanfare en battant l'Afrique du Sud. Donc, voilà.
Ouais.
Le Mexique pratiquement qualifié avec ses deux.
Qui est qualifié, oui, mathématiquement
qualifié. Qualifié, moi, je trouvais ça.
Par ses deux victoires, oui.
Et un petit mot pour le Mexique, qui, après avoir gagné son premier match, gagne le deuxième. Dans un contexte interne, social, qui est assez agité avec des colères sociales. Mais justement. On va au stade Azteca et c'est un peu là où on oublie tout ça, en partie. Donc, ça fait un beau contraste parce qu'on voit les stades pleins, malgré tous ces problèmes qui agitent le pays.
Après, la réalité des stades en Coupe du Monde n'est pas la réalité des pays parce que les prix restent vraiment prohibitifs. Ouais. Donc, les gens qui ont les moyens peuvent aller au stade, mais ce n'est pas la réalité de toutes les personnes. Mais tu as raison, Vanessa.
On en parlait hors antenne, ça paraît quand même incroyable. Il y a des pays qui se. Il y a des gens qui se saignent pour aller voir des matchs. Et dans des pays quand même très pauvres, quoi. Le niveau de vie n'est pas très relevé, quoi.
Et en plus, on sait très bien que le Mexique a disposé de très peu de matchs dans la distribution. Et que le Canada et les États-Unis, eux, évidemment, ont eu la majorité des matchs. Oui. Et ça, c'est aussi la volonté de notre cher président américain Donald Trump, qui a pas
qui est un choix évidemment politique.
Qui est un choix politique, parce qu'évidemment, la politique a un impact sur cette Coupe du Monde, notamment sur le Mexique, États-Unis, qui est
même si
au
la
cœur.
FIFA s'efforce et veut toujours dire que le sport n'est pas politique, c'est évidemment faux.
Venant de la FIFA, ça sonne vraiment bizarre.
Mais tant que les sportifs nous donneront du bonheur, c'est eux qui gagneront. Voilà. Hein. C'est eux qui gagneront, qui finiront par l'emporter. Tant qu'ils marqueront des beaux buts, ça occultera le restant, quoi.
C'est ça.
Après, ça occultera le restant, mais c'est dommage.
C'est comme Pierre.
Moi, je veux pas ça, moi.
Je pense pas que ça occulte vraiment ce qui se passe.
C'est ce qu'on retiendra.
Oui, mais justement, ça peut servir de détonateur, ça peut éveiller les consciences parce que justement, toutes les caméras du monde sont braquées là-dessus. Et c'est peut-être le moment aussi de faire prendre conscience à certaines populations de ce qui se passe et que finalement, si on a 22 bonhommes qui arrivent à se passer dessus sur un terrain, peut-être qu'on peut avoir deux chefs d'État qui pourront réussir au moins à discuter.
On est d'accord, mais on a aussi connu ça dans le passé. Il y a des choses qui n'ont pas changé, le régime.
Toujours.
Malheureusement.
Moi, je suis allé à Moscou en 2018, on pensait pas que notre ami Poutine, il allait mal se comporter quelques années après, quoi.
Si on suit un petit peu la géopolitique de ce coin-là, on avait quelques prémices.
Remarquablement bien accueilli.
Parce que vous venez de l'extérieur.
Vous, les journalistes.
Il prend la Crimée en 2014, mais dans le vestiaire, tout le monde chante Poutine.
Et le pire, c'est qu'il a chanté avec l'équipe de France en 2018, c'est le président Macron. Ça, c'est fou.
Ils chantaient ensemble dans le vestiaire.
Ça, c'est fou. Comme quoi, vous voyez, comme quoi.
C'est pour ça qu'il est bon. Il faut quand même ne pas oublier cette dimension que peut avoir une Coupe du Monde et les leçons qu'il faut en tirer.
Nous, on souhaite tout de même que le sport soit toujours au-dessus de tout ça. Exactement. Tout comme aux Jeux Olympiques, c'est normal qu'il y ait cette neutralité, que le sport l'emporte. Ça, je tenais à le souligner aussi. Voilà.
Ça devient tout de même compliqué, surtout notamment, je pense à la sélection iranienne.
Ouais, mais
qui pour le coup vraiment subit vraiment un traitement injuste. C'est-à-dire que là même leurs performances sportives en sont évidemment
impactées
parce qu'ils doivent faire épreindre de l'avion le jour même du match, quoi.
Oui, c'est parce que la Coupe du Monde elle est aux USA.
Non, c'est pas que pour ça.
Si elle était en Espagne, au Portugal ou au Maroc comme dans 4 ans, il y aurait pas ce même problème fatalement pour les Iraniens.
Non, c'est pas que pour ça, c'est le côté du conflit États-Unis-Iran, on va faire
exactement ça, c'est ce que je te dis, c'est parce que ça tombe aux USA et que en pleine géopolitique ça se passe mal entre les deux pays. Si ça avait été au Maroc, en Espagne et puis au Portugal, les Iraniens auraient été probablement beaucoup mieux traités.
Mais on est aux États-Unis.
On verra ça dans 4 ans, ce qui va se passer dans 4 ans.
Que dirions-nous si nous étions en conflit avec une autre puissance étrangère qui viendrait jouer en France? Est-ce qu'on n'aurait pas des attitudes aussi comme ça? Bon, ça reste un contexte de guerre qu'il faut quand même souligner. Mais ouais. Voilà, ouais. C'est peut-être, là, c'est peut-être ouais. le politique qui parle. Mais
non,
il
y a
quand même des choses qu'il faut garder à l'esprit quand on regarde un spectacle comme celui-ci. Ouais. C'est que le sport doit gagner,
ouais.
mais on ne peut pas fermer les yeux sur
non, mais bien
tout.
Sûr.
À fait. Exactement. Tout à fait.
Heureusement, on le voit dans un sport que connaît bien Stéphane, hein, le tennis. Il y a des Ukrainiennes et des Russes qui ne vont pas se saluer
et
forcément. Russes
aussi, hein. Mais oui, bien sûr. Parce que
les Russes peuvent jouer sur leur propre bannière quand ils n'ont pas
compris. Non, mais à Roland-Garros, s'ils se rendent compte, ils ne vont pas se saluer. Ils vont pas saluer, non, mais ça voilà, mais malheureusement, voilà. Allez, on va revenir donc au terrain plus proprement dit. États-Unis-Australie, 2-0. Beau match de la part des USA.
Oui, c'était un beau match. C'était un beau match. Ils ont fait le travail. Ouais. Ils ont fait le travail, on va dire. Parce que bah, l'Australie, bon, c'est une nation qui reste toujours très, très difficile à jouer, très physique. Si on a parlé de 2018, bah, 2018 France-Australie, c'était le match le plus difficile pour se lancer pour les Bleus. Ouais. Et ça n'était pas pour rien parce qu'en face, ça jouait très, très dur. Là, c'était pareil, ça jouait dur sur le plan physique du côté de l'Australie. Mais voilà, les États-Unis, ils ont fait le boulot. 4-1 au premier match. C'était contre le Paraguay.
Donc, merci. Comme le Canada, ils sont qualifiés déjà pour
ils sont, oui, oui, ils sont qualifiés. Franchement, ils ont fait le travail. Et surtout, ce qui est enthousiasmant avec cette équipe, c'est que contrairement à voilà, il y a 30 ans avec le Mondial 94, où vraiment, ils connaissaient pas le soccer. Non. Là, on a des joueurs en 2026 qui jouent parmi certains des plus grands clubs européens, oui. qui peuvent se comporter comme des leaders sur le terrain, des leaders techniques, des leaders tactiques, des leaders de vestiaire.
Notre ami Balogun, notamment.
Oui, ouais, oui, on peut citer...
Bien sûr. Plus connu, c'est pour ça.
Bien sûr, ouais, bien sûr. Bah, on peut citer Balogun, on peut citer Weston McKennie, le milieu de terrain de la Juve, ouais. Même sur le banc aussi avec Giovanni Reina qui est passé par Dortmund, Christian Pulisic, j'allais l'oublier, qui est lui encore plus connu que Balogun, parce que c'est lui le meilleur joueur, c'est lui qui est censé être le meilleur joueur de l'équipe. Mais je veux dire, il y a beaucoup de noms qu'on peut citer alors qu'on n'arrivait pas à les citer il y a 30 ans par exemple sur la sélection américaine.
Et puis, il joue vraiment bien, quoi.
Et il joue vraiment bien. Pochettino, il fait un travail très intéressant à analyser sur la sélection américaine.
Et nous on peut le citer, et les Américains aussi maintenant peuvent citer des gens de leur équipe, ce qui n'était pas le cas en 94.
Et avec des nouvelles pépites comme le fils de George Weah, Ballon d'Or, qui a intégré cette équipe américaine, qui lui est 100% américain, qui s'insère parfaitement dans cette culture américaine, tout en ayant ce talent footballistique.
Les Américains là actuellement pensent que leur équipe est vraiment très forte parce qu'ils gagnent de partout. Alors, ça a créé un gros engouement. Il y a une ambiance de folie.
On connaît un petit peu les Américains, c'est des patriotes.
Peu importe le sport, s'il y a la bannière étoilée qui est agitée, ça va griller USA en tribune. Oui,
ça, on peut leur faire confiance. Le Maroc qui bat l'Écosse 1-0. Un match que les Marocains auraient pu gagner plus largement. Victoire logique et méritée, même si bon. L'Écosse a mieux fini dans le dernier quart d'heure sans être dangereux, mais enfin un match que le Maroc a largement bien maîtrisé et aurait pu gagner plus largement.
Ça avait tout d'un match piège, surtout.
Ils ont marqué dès le début, en plus.
Voilà, ils ont marqué très très vite. Première action du match, 1 minute et 12 secondes de jeu. Ismaïl Saïbari qui ouvre le score. Déjà, rien que ça, on n'a pas eu le temps de se poser dans le stade qui avait déjà 1-0 pour le Maroc. C'était très drôle. Mais voilà, en dehors de ce but-là, c'était un match poussif. Avec surtout un rythme de match qui était assez haché, que j'ai trouvé assez haché de la part des Écossais. C'était assez difficile de rester devant l'écran, mais cela dit, ils ont fait le boulot en remportant ce match et en étant en position de force pour se qualifier pour la suite de la compétition, parce que c'était en réalité le match pour les Marocains. C'était le match à ne pas perdre s'ils voulaient aller plus loin dans la compétition, s'ils voulaient espérer même aller attraper pourquoi pas la première place face aux Brésiliens. Et c'était vraiment ils ont fait le boulot.
Alors les Brésiliens ont fait aussi le boulot, 3-0 devant Haïti. Il était temps.
C'est un match qui n'est pas représentatif de ce qu'on attend du Brésil. Haïti a été très valeureux lors de son premier match contre l'Écosse. Là, ils ont pris le bouillon dès la première demi-heure de jeu. 3-0 à la pause. Ils ont relâché en deuxième période. J'ai même vu l'entrée du jeune Ryan. Ça m'a particulièrement amusé de voir l'entrée de ce joueur-là, qui était un jeune joueur du championnat brésilien. 18 ans. Même génération quasiment que Hendrick et Estevao. Estevao qui n'a pas été sélectionné. Mais j'ai été amusé de voir Ryan rentrer sur le terrain plutôt qu'un Hendrick qui lui a plus de références sur le plan européen. D'ailleurs c'est un truc qui est très très drôle sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, sur X. C'est qu'il y a un arc
très drôle sur entre Carlo Ancelotti et Hendrick. C'est-à-dire Carlo Ancelotti, on sait qu'il ne veut pas faire rentrer Hendrick, et les Brésiliens s'amusent avec des captures vidéo extrêmement drôles sur je veux pas te faire rentrer, pourquoi? Parce que il se passe ça. Voilà, the floor is lava, si jamais tu entres, Carlo Ancelotti va sauter et Hendrick va se noyer dans la lave. Voilà, c'est que des petites vidéos comme ça pour empêcher parce qu'il faut.
Ils imaginent que Ancelotti ne veut vraiment pas voir jouer Hendrick.
Voilà, qu'il veut pas voir jouer Hendrick, sachant que Ancelotti a déjà coaché Hendrick au Real Madrid, se retrouve avec le même coach dans la sélection brésilienne.
Il est rentré ce match-là.
Oui, il est rentré à ce match-là. Mais c'est quand même très drôle de le voir, parce que c'est un jeune joueur, je prédis, avec une grande carrière.
Bon, par contre, c'est pratiquement fini pour la Turquie. Tu parles Paraguay 1-0.
Oui. C'est fini. Mathématiquement, c'est terminé.
Même s'ils gagnent leur dernier match, ça sera trop tard.
Même
dans les meilleurs troisièmes, ils n'ont pas une chance.
Même dans les meilleurs troisièmes,
grosse déception quand même, les Turcs. On attendait un petit peu mieux quand même.
C'est pas nouveau. Je crois que c'est en 2022 aussi où il y avait une grosse déception aussi par rapport à la Turquie. Ça fait un petit moment qu'il y a une... qu'il y a une crise.
C'est un peu paradoxal, parce que l'équipe turque a pas mal de jeunes joueurs à fort potentiel. On parle de Arda Güler au Real Madrid, on parle de Kenan Yildiz aussi à la Juve, pour ne citer qu'eux. Mais ils sont sur une génération qui est en cours de reconstruction, avec pas mal de jeunes joueurs à très fort potentiel. Mais ce qui est paradoxal, c'est que par rapport au championnat turc, c'est très difficile d'en voir un sortir du lot, parce que les meilleurs clubs turcs achètent des joueurs de l'extérieur. Du coup, on n'a pas la possibilité de voir les joueurs locaux s'exprimer et s'imprégner d'un vrai passif national avant international, ce qui fait que on a une lecture complètement biaisée. J'ai vu une stat justement concernant ces deux matchs: 62 tirs en deux matchs, pas un but marqué. C'est 62 tirs, 4 tirs cadrés, je crois, c'est ça.
C'est la pauvreté de leur football actuel, quoi.
Ça arrose pour arroser.
Voilà. L'expression est parfaite. Ça arrose pour arroser, et c'est terrible, parce que il y a des bons jeunes joueurs dans cette équipe, mais c'est pas pour cette Coupe du Monde.
32 tirs contre le Paraguay.
Oui, 32 tirs contre le Paraguay. 32 tirs contre le Paraguay.
Traditionnellement, la Turquie est très forte en Turquie.
Exactement.
C'est un petit peu le contexte. C'est comme le basket qu'on va jouer en Turquie.
C'est compliqué.
Ou en Grèce.
En Grèce aussi, c'est pareil.
C'est pareil. Bon, samedi, il y avait quand même deux matchs intéressants, notamment les Pays-Bas qui ont écrasé la Suède 5-1.
Ouais. Ils m'ont surpris, moi.
Parce qu'on ne pensait pas qu'il y aurait autant de buts avec les deux équipes, quand même. Surtout la part des Pays-Bas, quoi.
On a l'impression qu'ils ont trouvé la recette. On parlait justement de l'Angleterre, mais on a l'impression qu'eux aussi, ils ont trouvé la recette pour pouvoir faire quelque chose dans cette Coupe du Monde. Parce que si on regarde les 5 buts marqués par les Pays-Bas, sur les 5, je crois qu'il y en a 4 qui sont issus d'un mouvement collectif, où il y a au moins 3 joueurs qui ont touché le ballon. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose qui va leur faire énormément de bien dans la suite de la compétition. Et puis, vraiment, pareil, surpris. Vous voyez, Angleterre-Croatie, le match des Anglais, là c'était pareil pour le match des Hollandais. Très très fort, très très forte domination dans le jeu, comme face à la cage.
Et surtout qu'ils se mine de rien, ils sont pas dans un groupe facile.
Et oui,
parce qu'ils sont avec le Japon, la Suède la Tunisie.
Après la Suède, on était aussi un peu échauffés par leur premier résultat.
Exactement,
on s'attendait pas à les voir prendre 5-1 après la première démonstration qu'ils avaient fait face à la Tunisie.
Sur le même score.
C'est pour ça, donc ils sortaient aussi d'un match nul qui était assez impressionnant contre le Japon, 2-2. Mm-hmm. Et ils arrivent quand même à se remettre dans le sens de la marche. Et ils ont joué tout le match, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais relâché. Contre le Japon, ils avaient relâché à chaque fois qu'ils avaient marqué. Ils n'ont vraiment pas lâché les pauvres Suédois qui vraiment étaient sans défense.
Puis pas mal de joueurs qui se sont signalés. Je pense à Brian Brobé avec son doublé dès le premier quart d'heure de jeu. Je pense à Cody Gakpo, à Christensio Somerville aussi, qui a fait un super match sur son côté.
Comme face au Japon,
dévoué au collectif. Donc, il y a pas mal de belles histoires dans cette équipe du Pays-Bas. Pourquoi pas viser quelque chose?
C'est faisable.
Ils ont des atouts. Il y a un vrai collectif qui est en train de se créer.
Parce que c'est pareil, les Pays-Bas, on en parle souvent ces derniers temps. Puis bon, en général, ils sont assez décevants.
Ils vont quand même assez loin, les Pays-Bas.
Ça fait quart de finale, je crois.
Pas depuis un petit moment, quand même, les Pays-Bas. Donc, je crois que le dernier bel exploit, ça va être en 2014.
Oui, 2014.
La Coupe du Monde.
Non, 2010 même.
Finale,
2010.
Non, mais leur dernière belle performance en 2014, ils sont dans le carré d'as du mondial. Après, on ne les voit plus dans les grandes compétitions.
Oui, parce qu'ils sont en reconstruction. Oui, c'est ça.
En 2022 contre l'Argentine, ils perdent ses demi aussi, non?
C'est vrai,
demi ou quart?
Non, c'est vrai.
C'est quand même un
quart. Oui, mais ça a été loin, oui, tout à fait.
C'est quand même un très beau match aussi.
C'est un match assez serré.
C'est un match très serré.
C'est un petit peu le même scénario que la finale avec l'équipe de France. Les Pays-Bas sont dominés, puis ils reviennent dans les 20 dernières minutes à 2-2.
Ils ont fait rentrer les tours de contrôle.
Et puis ils obligent donc l'Argentine à gagner au tir au but. Exactement le même, la même physionomie. Oui, c'est vrai, ils font sortir en quart, mais pour être dans le carré d'as, il faut remonter à 2014.
Mine de rien, ça reste une sélection qui, même lorsqu'elle est en reconstruction, a pas mal d'atouts à faire valoir. Et puis cette culture du football, du football qui est très propre, qui est très propre chez eux. Voilà, je vais éviter de revenir loin avec l'Ajax. Voilà.
C'est vrai quand même qu'à ma décharge, ils avaient été battus en demi-finale de l'Euro par l'Angleterre il y a 2 ans. C'est vrai.
Ils avaient été battus. C'est une équipe qui est placée.
Ils sont toujours dangereux. Ça fait toujours peur quand on doit affronter les Pays-Bas. On les a battus il n'y a pas très longtemps.
Oui.
L'équipe de France a fait un assez bon résultat. Mais on est jamais serein quand on joue contre eux. On ne sait jamais à quelle sauce on va être mangé. C'est terrible.
Un des beaux matchs de ce mondial, c'était Allemagne-Côte d'Ivoire, 2-1 pour l'Allemagne.
Le match le plus frustrant.
Ils ont souffert, nos Allemands. C'est un match qui peut basculer d'un côté comme de l'autre.
Et ils ont eu des occasions, les Ivoiriens, pour gagner ce match.
C'est
pour
ça. C'est match nul ou le gagner, ça n'aurait pas été mérité.
C'est extrêmement cruel ce qui s'est passé pour les Ivoiriens. Ils avaient les occasions de remporter ce match en ayant ouvert le score déjà. Ils avaient les occasions pour tuer le match en plantant le deuxième but. Et même en se faisant égaliser, ils avaient la balle du 2-1. Je revois 6 mois d'Ingra qui contrôle alors qu'il a un boulevard devant lui pour aller prendre Manuel Neuer en duel. Je dis mais c'était l'occasion, c'était la balle de but. Et puis derrière, très mauvais le contrôle.
J'aurais au moins mérité le match nul et même la victoire, ça n'aurait pas été mérité.
Bien sûr.
Et puis d'un côté comme de l'autre. Bon, le coaching a fait la différence.
Oui, le coaching a fait la différence. Denis Zoundav qui plante un doublé, c'est la belle histoire de la sélection. En plus, le deuxième but qu'il marque, c'est dans le temps additionnel, alors que même là, la Côte d'Ivoire avait de belles ressources pour pouvoir terminer le match et aller chercher pourquoi pas la victoire. C'est quelque chose que j'ai dit en plus par pur réflexe devant mon écran. Si la Côte d'Ivoire, si vous commencez à rater des occasions comme celle-ci, vous jouez face à l'Allemagne, les gars. Hein. L'Allemagne, ils vont vous punir de la manière la plus cruelle possible.
Malheureusement,
et c'est exactement ce qui s'est passé.
Il reste moins de 5 minutes dans le temps additionnel entre l'Argentine et l'Autriche. C'est toujours 1-0 donc pour l'Argentine, pour ce match face à l'Autriche. Tiens, justement, on parlait du
Curaçao.
Curaçao, pardon.
Voilà.
Contre l'Équateur, 0-0. Assez étonnant quand même.
Pour moi, c'est vraiment une grosse quand même déception.
Et le gardien fait encore un super match.
C'est pour moi une grosse déception quand même de l'Équateur.
Parce que
est quand même une très belle équipe sud-américaine, on les voit assez rarement en Coupe du Monde, etc. Mais quand on suit justement les compétitions sud-américaines, ils sont quand même toujours très bien placés parce que c'est une équipe qui joue vraiment bien au football. Mm-hmm. Et c'est pour ça que je suis très très surpris et un petit peu déçu de ce match nul, même si je suis d'un côté un petit peu content parce que Curaçao marque ses premiers points en Coupe du Monde.
C'est bien.
C'est pour cette petite île, c'est génial, évidemment. Et même pour le gardien qui fait.
Hier encore,
exactement. Et le gardien fait un match absolument fantastique. Mais bon, quand même, il faut faire mieux. Il faut faire mieux du côté de l'Équateur,
Et puis, mais c'est quand même la 23e nation mondiale. Quand même.
Exactement, c'est pour ça. C'est...
On parle pas de n'importe qui. Et là, les trouver bloqués comme ça, sans solution, c'est bon. Le gardien, c'est vrai que ça.
C'est le sujet du match. Le gardien.
Il y a des matchs exactement. Il y a des matchs comme ça où le gardien fait tout.
Parkman, ses followers.
C'est la même chose. Mais parfois, il y a des matchs comme ça où
le gardien sort. Comme le gardien du Cap Vert, pareil.
Même le gardien iranien, c'est pareil.
Mais bon, il faut quand même être sérieux. L'Équateur doit gagner ce match quand même.
Sur le papier, je suis d'accord. L'Équateur doit gagner, mais faut quand même saluer l'exploit. C'est le premier point de l'histoire du Curaçao à la Coupe du Monde.
Ce qui est inquiétant, c'est que justement, c'est une Coupe du Monde. Et quand on voit l'Équateur ne pas réussir à remporter ce match-là, c'est là où ça devient inquiétant.
C'est vrai. Après, la Coupe du Monde, c'est aussi les exploits.
Des Coupes du Monde, quand même, sur les premiers tours, il y a parfois
des surprises.
On parle quand même
de Curaçao.
C'est pas l'Arabie Saoudite contre l'Argentine.
Et l'Argentine, on peut aventurer Curaçao. Bon, après, c'est qu'un match nul.
Vous êtes dur quand même, parce que l'Espagne a été tenue en échec par le Cap Vert. Et de la même manière.
Pour moi, c'est pas normal.
Évidemment, c'est pas normal.
C'est encore un gardien qui fait un super match, mais c'est aussi l'Espagne qui doit gagner ce match.
Mais c'est le sel de la Coupe du Monde.
On joue ce match-là 10 fois, il gagne 9 fois.
C'est vrai.
C'est pour ça que les Coupes du Monde.
Évidemment.
Bien sûr, c'est le lot des belles histoires.
Par contre, c'est fini pour la Tunisie.
Oui, oui, bah,
devant le Japon.
C'est n'importe quoi.
Non, non, la Tunisie. Hervé Renard, c'est trop tard.
Non, la Tunisie, c'est un premier match, 4-0 le deuxième. Bon.
J'adore le Japon. Je trouve que c'est une équipe formidable à jouer. Ils avaient battu l'Allemagne lors de la dernière Coupe du Monde. Ouf.
C'est pas fini.
Là, il a failli y avoir un.
Qu'est-ce qu'ils font? Ils bégayent face à la cage.
Argentin. Peut-être en direct.
Donne un Messi, donne un Messi encore.
Eh, ça fait but quand même.
Ah bah, 2-0.
Eh ben voilà. 2-0, s'il prenons à 3.
C'est Messi encore.
Oui, c'est Messi encore.
Il a tout pris le deuxième ballon.
Ah oui,
il avait fait un gros mondial en 2022, mais là il est,
il est reparti sur les chapeaux.
Il est reparti sur le même niveau qu'en 2022.
Ah ouais.
Deux lances closeux, mais en plus là il prend encore un but. Voilà,
en direct.
Ça va pas plaire à Monsieur Mbappé. Ce soir il va être énervé.
Lui seulement, tu penses qu'il n'y aurait pas un petit Harry Kane qui pourrait être énervé plus tard à la compétition? Non, c'est dingue.
Donc 2-0, ça va. C'est en direct, mais on pourra.
Pour revenir sur la Tunisie, donc.
Oui, bah
sur la Tunisie, il n'y a rien à dire.
N'aura pas suffi, malheureusement.
Non, mais non. Honnêtement, vaut mieux parler du Japon. Je suis d'accord, je vous rejoins, Cédric.
J'adore le collectif japonais. Ouais. J'aime beaucoup leur état d'esprit, leur manière d'avancer ensemble, de presser. J'adore cette équipe et ça fait quelques années déjà qu'ils surprennent.
Ouais.
Je les vois aller loin.
Ouais,
je les vois faire quelque chose dans cette Coupe du Monde.
Ils vont en huitième de finale.
Ouais, donc huitième de finale, je les inscris aussi, hein, largement.
C'est une équipe qui est régulièrement.
Ils accrochent 2-2 les Pays-Bas. Ils font 2-2.
Ils font 2-2 face aux Pays-Bas.
Il n'y a pas de débat. Cette équipe tunisienne est malade.
Oui, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à garder de la Tunisie dans cette Coupe du Monde.
Ils n'avaient pas été bons à la CAN déjà.
Non, à la CAN quand même, ils ont réussi à sortir des poules. Ils ont quand même fait quelque chose. Mais là, honnêtement, c'est.
Mais après, ils arrivent dans un mondial dans un contexte aussi compliqué
où
ça va pas avec le coach. Dès le premier match, ils le virent. Tu prends un pompier comme ça au hasard. Non, mais
c'est quand même incroyable.
Tu peux pas.
Surtout Hervé Renard,
il joue
souvent les pompiers.
Certes, qu'il joue les pompiers, c'est une chose, mais bon, à un moment donné.
Il a besoin de stabilité aussi.
Voilà, il a besoin de stabilité, il a besoin de match pour pouvoir connaître déjà son effectif, les forces, les faiblesses. Là, on lui demande de faire le pompier comme si c'était. Ouais, fallait sauver le FC Metz ou le FC Nantes de la descente en Ligue 2, quoi.
Non.
Je suis désolé, ça marche pas. On est en Coupe du Monde, on joue en sélection nationale. Il faut être sérieux, quoi. Et ça s'est vu, hein, le 4-0.
Je pense qu'ils sont conscients de ça. Je pense qu'ils l'ont fait venir parce qu'ils ont peut-être, enfin, je l'espère, une vision un petit peu plus long terme en se disant bon, là, il va faire ce qu'il pourra avec ce qu'il pourra. Mais j'espère, parce que ça peut être une bonne chose, Hervé Renard, sur cette sélection.
Oh, je pense pas qu'il va rester après.
Je pense pas non plus, mais c'est dommage. Je pense que l'idée est bonne, mais je pense pas qu'il restera.
En tout cas, si jamais il reste, je vous rejoins là-dessus, si jamais il reste, il a tout à reconstruire. Oui. Et c'est un coach de construction.
Oui.
C'est pas un coach, pompier de service. Non, c'est un coach de construction.
C'est pas un Pascal Duprat, c'est pas un gars que t'appelles une journée de la fin.
C'est pas Antoine Comboiré. Non, c'est pas un coach de ce niveau-là.
L'équipe féminine française, il avait beaucoup à construire. Pas resté longtemps. Hein.
Oui, il est pas resté longtemps parce que c'est ça marche pas. Oui, effectivement, ça marche pas partout. Puis il avait déjà des a priori concernant l'idée de revenir déjà dans le foot africain avant. Quelques semaines après avoir signé son contrat avec la 3F, donc là pour le coup c'est là s'ils veulent vraiment faire quelque chose et vraiment tout recommencer, c'est maintenant et c'est avec Hervé Renard. C'est pas juste pour le mondial.
Je suis d'accord.
Alors Belgique, on en a parlé, 0-0. Espagne qui écrase l'Arabie Saoudite 4-0.
Oui, bon. Ouais. Pareil, c'est un match où on retient rien.
Ça a été un match à sens unique.
À sens unique, il y a déjà 3-0 à la pause.
Les Espagnols ont fait la différence et puis ils ont été dans la gestion en deuxième.
Voilà, c'est ça. Et ils auraient même pu terminer avec une manita, avec un but refusé pour hors-jeu à la toute fin du match.
Donc, et là, il y a un ballon de Messi qui est passé pas bien loin sur
un troisième but.
Ouais, bon, là, je pense que c'est fini. On va s'y faire. Voilà,
fin du match, c'est pas passé loin.
L'Argentine qui bat l'Autriche 2-0.
Et l'Argentine qualifiée du coup, de victoire en deux matchs.
Avec un grand Messi.
Et qui s'inscrit donc comme les équipes favorites. De ce mondial
de loin.
Le dernier but, il est incroyable. Parce que la manière dont il cherche Messi pour lui donner le ballon, alors qu'il était en occasion de tirer, il pouvait très bien
Faut finir. Je suis d'accord. Et Messi, 5 buts, il a marqué les 5 buts de l'Argentine depuis le début de cette Coupe du Monde, à lui seul.
À la Coupe du Monde 2022, on avait dit qu'il y avait trop de pénaltys qu'on lui avait accordé.
Là, les buts qu'il a marqués, c'est vraiment lui qui se l'écrit.
Et il a raté le pénalty qu'il a eu en début de match en plus.
Ouais. Comme en 2022 avec l'Arabie Saoudite, le premier pénalty, comme quoi, vous voyez. Hein. Allez, sur les deux derniers matchs, avant donc celui de l'Argentine qui vient de s'imposer devant l'Autriche, donc 2-0, on a eu un Uruguay-Cap-Vert, on en a parlé, 2-2.
Oui, 2-2.
Ça, c'est quand même aussi une belle surprise. Deux machines quand même pour le Caver face à deux belles nations de football. Quand même.
Et ils sont en position de force pour aller se qualifier.
C'est ça qui est assez fou.
C'est génial. L'autre belle histoire de ce mondial. C'est vraiment le Caver. Et puis, ces deux premiers buts de leur histoire en Coupe du Monde.
Oui, c'est vraiment très beau ça. Hein.
Voilà, donc je crois que même le premier buteur, malheureusement, je n'ai plus son nom en tête, mais le premier buteur est reparti avec le titre d'homme du match. Pour le symbole, justement, d'avoir marqué le premier but de l'histoire du Cap-Vert en Coupe du Monde. Donc, 2-2 face à un Uruguay bien malade. Bien malade. Que Bielsa a déjà dénoncé en interne, comme quoi ça se passait pas bien. Il y a rien qui est mis en place. Il y a rien qui prend de Bielsa en Uruguay.
Le pauvre Bielsa, à chaque fois, il a des problèmes tout partout. Il va.
Bah ouais,
dans
c'est.
Dans les clubs, dans les sélections, le pauvre.
C'est catastrophique. C'est hein. Bon, l'Uruguay, bon, merci Diego Forlan, merci Luis Suarez, merci Edinson Cavani, merci Diego Lugano, mais voilà.
On parlait de 2010 voilà, tout à l'heure, ils ont fait une belle Coupe du Monde en 2010, hein, l'Uruguay, quatrième. Oui,
bien sûr.
Valverde est bien seul, quoi. Hein.
Ouais, Valverde, il est bien seul, c'est le cas de le dire. Ouais.
Ils ont surtout fait une belle Coupe du Monde en 1930 et en 1950.
Ah oui,
mon papa n'était pas encore né.
Je me rappelle.
Depuis.
Et du coup, ils en ont autant que nous.
Ils en ont deux.
Elles sont valables.
Bien sûr qu'elles sont valables, plus que jamais.
Bon, le dernier match d'hier, c'était l'Égypte qui a battu donc la Nouvelle-Zélande 3-1.
Pas regardé.
Pareil, c'est
dormait.
C'était à 3h du matin.
je l'ai regardé de loin et bon, pour le coup, l'Égypte s'est bien remise en avant. Parce que faut quand même se dire une chose hein, sur ce groupe Belgique, Égypte, Iran, Nouvelle-Zélande. Avant le deuxième match, c'était 4 équipes à 1 point chacune. Donc n'importe qui pouvait se positionner parmi les deux équipes en position de qualification. Là, on a vu un peu plus de choses sur ce match, notamment un peu plus de certitude, notamment du côté de l'Égypte face à la Nouvelle-Zélande. On a retrouvé Mohamed Salah.
Un but, une
passe décisive. Donc, c'est vraiment l'information à retenir.
Fallait qu'il se réhabilite. Donc, victoire de l'Argentine devant l'Autriche 2-0. Et puis ce soir, après France-Irak, il y aura donc Norvège-Sénégal. Match intéressant.
Va falloir être devant.
2h du matin.
Oui. Je vais sacrifier ma nuit.
On peut enchaîner pratiquement.
On va encore se coucher à l'heure, mais.
Ah bah, c'est ça.
Se coucher. Non, dormir, c'est pour les faibles.
Ça se trouve, à 2h du matin, le match contre l'Irak sera pas fini. Si la météo n'est pas de notre côté, ça pourrait risquer.
C'est vrai. Norvège-Sénégal.
C'est un match coup près.
C'est un match coup près. C'est malheureux vaincu.
Parce que le Sénégal a absolument besoin de gagner et la Norvège veut aussi se placer.
Oui, parce que. On l'a dit, on l'a répété, ce qui se joue dans le groupe, c'est la première place. Hein,
exactement.
Après, ça dépend de. Voilà,
et quels sont vos pronostics alors?
Norvège-Sénégal?
Ouais.
C'est dur.
Pour moi, si le Sénégal fait la première mi-temps, enfin, s'ils arrivent à maintenir le niveau qu'ils ont eu en première mi-temps face à la France, face à la Norvège, s'ils arrivent à faire ça tout le match, moi je les vois gagnants.
Ouais, tu les vois gagnants.
Je les vois quand même gagnants.
Je te rejoins au mot près. Vraiment, ils ont été très très intéressants face à la France, le Sénégal, avec pas mal de belles intentions de jeu. Ils auraient même mérité d'ouvrir le score en première période.
Que la France rentre à 0-0 à la mi-temps, c'est un miracle.
C'est un petit miracle.
Ça n'arriverait pas face à d'autres grandes équipes. Hein.
C'est clair. Et donc là, le fait de jouer face à la Norvège, s'ils maintiennent ce niveau de jeu-là, honnêtement, ça peut donner quelque chose de très très sympa pour le Sénégal. Donc, moi je me positionne aussi sur le Sénégal.
Pierre, tu vois quoi, toi?
Bah, aucune idée.
Aucune idée. Machule comme moi.
La Norvège, c'est
tu
un
sais
peu...
le score classique 1-1.
Bien sûr, s'il y a 1-1 ou 2-2, honnêtement, on est preneurs. Hein, parce que c'est comme ça que se dessine le scénario du match, si on prend du recul. Après, vous nous avez demandé nos pronos.
La Norvège à la mode en ce moment.
C'est vraiment l'opposition de style. Là,
oui, le Sénégal a une très bonne équipe. Ils sont champions d'Afrique.
C'est pour ça que ce sera un bon match.
Je pense que ce sera un match assez fermé.
Potentiellement, moi, je vois bien aussi même le Sénégal, la défense du Sénégal a été très bonne contre la France, bon, en première mi-temps en tout cas.
Première.
Et potentiellement, moi je la vois presque, ça va être leur mission, c'est de museler Haaland, quoi.
Oui, voilà.
C'est ce qu'ils vont réussir.
C'est le plan anti-Haaland.
Oui, c'est pour ça que je posais la question tout à l'heure. Je veux dire, est-ce que la Norvège, c'est pas qu'Haaland, quoi?
Ah bah non, c'est pas que lui.
Prêt, mais voilà.
Oui, mais cela dit, s'ils se mettent à faire un plan anti-Haaland, ça peut donner des billes à ses coéquipiers, quoi. À d'autres, je pense. Je sais pas si Sorloth va être titulaire ce soir, mais. Honnêtement, il a sa carte à jouer s'il y a un plan anti-Haaland.
Je ne les vois pas vraiment faire un plan anti-Haaland comme ils n'ont pas complètement fait un plan anti-Mbappé, mais plutôt conserver justement une défense bien solide, un mur bien hermétique, plutôt que chercher vraiment, je pense, à museler un seul joueur.
Dans tous les cas, c'est vrai que si la stratégie c'est la même contre la France, c'est-à-dire que c'est d'aller de l'avant, même en défendant. ils vont, dans un premier temps, essayer de museler donc Odegaard, qui lui distille les ballons pour Haaland ou des choses comme ça. Donc là, ça peut passer vrai. Comme ça, en effet. Et je vois pas le Sénégal défendre dans ses 30 mètres tout le match. Évidemment que non, ils vont chercher à attaquer comme ils l'ont fait avec la France, c'est-à-dire récupérer le ballon, puis ensuite avancer. Puis ensuite, parce avancer. Que ça va aussi très vite devant. Hein.
Ça va être génial pour Upamecano et pour Saliba.
Ah ben c'est...
contre Haaland, ça va être génial.
Mais là, déjà, ils ont eu un vrai premier gros test hein, contre le Sénégal. Et pour moi, ils ont vraiment rassuré sur le niveau de la défense centrale, la charnière. Sur les côtés, c'était plus compliqué. Et le gardien, on y reviendra pas, c'était plus dur. La défense centrale, pour moi, a rassuré.
Les critiques qui sont faites contre Maignan, vous en pensez quoi?
Moi, je suis entièrement d'accord.
Il a fait un mauvais match.
Oui, justifié.
C'est le titulaire numéro 1. Il n'y a pas de débat en termes de niveau intrinsèque. Mais on peut les remettre évidemment en cause. Il n'a pas fait un bon match.
Non, il n'a pas fait un bon match. On aurait dû repartir avec le clean sheet. Il n'est pas précis au pied.
Il a de la réussite sur le.
Il a beaucoup de réussite sur le match.
Le poteau, c'est vrai que c'est. Poteau, ça tape son pied.
Il a de la réussite.
On a tous eu la goutte de sueur.
Il y a le poteau, il y a l'occasion. De Sarr où il rate presque l'immanquable sur le centre. Deuxième mi-temps, il prend ce but de Mbaye où il anticipe beaucoup trop, donc il fait cette faute de main. Et en toute fin de match, rappelez-vous, il y a 3-1 pour la France, mais il est à deux doigts de se faire lober justement par rapport à une mésentente et il récupère la balle sur la ligne. Alors moi, il m'a pas rassuré à voir comment ça va être ce soir. Et pour moi, vu que le match je le vois avec une large victoire française, potentiellement il pourrait y avoir une ou deux occasions de l'Irak. Il faudra qu'il soit présent parce que s'il prend rien qu'un but sur une seule occasion irakienne, pour la confiance d'un gardien, c'est compliqué
en
sur un mondial.
Du monde,
je suis pas inquiet parce que ça reste quand même un très grand gardien qui a l'habitude de la pression. Quoi. Il peut avoir fait un mauvais match, mauvais départ, mais je le vois vite se remettre dans le bain. Plutôt facilement. Ce qui m'inquiète surtout en défense, c'est Saliba par rapport à son état physique.
C'est vraiment peut-être que
ce soir, Konaté risque d'être là parce qu'ils se connaissent bien tous les trois. Donc, ça, c'est pas un problème de les faire jouer souvent ensemble. Mais si Saliba est aussi en méforme, peut-être que ça serait bien de l'économiser encore ce soir.
Oui. C'est effectivement le point noté. Hein. C'est l'état de forme de Saliba parce que pour le coup, on parle d'Upamecano. Oui, c'est une référence et c'est incontestable. Là-dessus, on est tous d'accord. Il n'y a aucun problème. Par contre, Saliba. Il n'y a que la partie physique qui nous inquiète.
Sinon, c'est du top.
Sinon, c'est du très, très, très haut niveau.
Mais la France est vernie. On a trois défenseurs centraux de top niveau.
Qui se connaissent très bien. Qui se connaissent bien. Qui jouent ensemble.
Droite, gauche. Non, c'est ça qui est bien.
Le problème, c'est plutôt sur les côtés. Les latéraux, c'est difficile.
Théo Hernandez. Il n'y a pas énormément de choix. Il y a les deux Hernandez et puis Yadin.
Non. Il y a Warren Zaïre-Emery.
À droite.
Oui, bien sûr.
Bien sûr.
Je préférerais faire jouer presque un Malo Gusto à...
Bien sûr.
Mais à droite, il n'y a pas d'inquiétude, parce qu'avec les trois qu'il y a, il n'y a pas vraiment d'inquiétude en fonction du jeu qu'on a envie de donner. Mais à gauche, c'est vrai que Théo...
Les deux, Hernandez et Digne. Voilà.
Théo est un petit peu en dessous de ce qu'il a été. Et Lucas Hernandez, par contre, lui, c'est le guerrier, c'est celui qu'on fait rentrer en fin de match. On a besoin d'avoir quelqu'un qui est derrière. Mais c'est vrai que la place de titulaire, en tout cas en début, c'est... Théo et Lucas Digne, ça se joue, honnêtement, je préférerais
débuter avec Lucas Digne qu'avec Théo Hernandez sur le plan de la concentration, parce que Théo Hernandez c'est un latéral qui a un profil plus offensif que Digne, qui a quelques lacunes sur les phases défensives, là où Lucas Digne est beaucoup plus complet, beaucoup plus équilibré. Je serais plutôt partant de mettre Digne titulaire plutôt que Théo Hernandez. Après, effectivement,
En cas de malheur, il peut y avoir un des Hernandez qui peut glisser au centre.
C'est ce qui est très fort d'ailleurs. C'est ce qui est vraiment très fort.
Il l'a fait des fois avec le PSG. Alors le dernier match, c'était la Jordanie qui a joué contre l'Égypte.
On en a parlé, le match de l'Égypte. On perd tellement le fil dans ces phases de poule.
C'était l'Égypte qui a battu la Nouvelle-Zélande, c'est ça?
On en a parlé aussi.
Ce que je veux dire, c'est que ce soir, on a Jordanie-Algérie.
C'est après. Vraiment, c'est pour tous les DZ qui nous écoutent. Pour tous les DZ qui nous écoutent, il faut noter l'heure, c'est 5h du matin.
Il faut le gagner.
Et surtout, il faut le gagner ce match.
Il n'y a pas le choix.
Il n'y a vraiment pas le choix.
Mais ça peut être vraiment un bon match.
Bien sûr. Ça peut être un bon match parce qu'il y a pas mal d'enjeux. Déjà pour l'Algérie, la Jordanie, c'est une équipe qui n'a rien à perdre. On sait qu'elle fait partie des plus faibles de cette Coupe du Monde, mais elle n'a rien à perdre. Et c'est le match à ne pas perdre aussi, dans le sens où
là, c'est le moment d'aller chercher la troisième place en allant blinder le goal average. S'ils en ont l'occasion, c'est maintenant.
Donc, ils doivent se réhabiliter comme l'Algérie.
Exactement.
Voilà.
Exactement.
Donc, ouais, c'est pour ça qu'on parlait. Oui, Pierre.
Ils doivent gagner, c'est tout.
Ouais,
c'est,
ils doivent gagner, il n'y a pas le choix.
En face, ce n'est pas l'Argentine. Non l'Argentine, oui, c'était un peu différent. L'Argentine, la Jordanie, je pense que quand même, ils vont y arriver.
Ouais, j'espère pour eux. J'espère pour eux.
Bah, voilà, sinon... en tout cas, pour le point jusqu'à ce match de ce soir. Théo, on en reparlait hors antenne. On sait que les journalistes aiment bien les stats. Il y a une stat dont on parlait, j'espère qu'elle ne va pas se produire.
Ah, lui, t'as commencé à me faire peur.
Ah ouais, c'est toi qui l'as dit. Oula, parce que même moi là, je me sens pas bien.
C'est-à-dire que dans les Coupes du Monde récentes, ouais, jamais les un vainqueur du Ballon d'Or n'a gagné la Coupe du Monde l'année d'après.
Ouais.
Ah,
jamais. C'est une stat de nos confrères d'équipe.
Oui, ah d'accord.
Espérons que ça se repose.
Alors les stats sont faites pour être démontées, Pierre.
Là, ça fait quelques années qu'on crée des stats.
Ouais, parce que là, pour le coup, la stat, elle sort de nulle part.
Et puis, ça veut rien dire.
C'est ça qui veut rien dire.
Sauf pour la Coupe du Monde 2026, il me semble.
J'aime beaucoup ce que je viens d'entendre.
Voilà. Non, mais c'est vrai que voilà, c'était pas la petite anecdote, mais espérons que ouais,
c'est une stat sans intérêt.
Sans intérêt, comme la majorité des stats. Hein.
Oui, voilà.
Il y a plein de stats, on crée des stats, des expected goals, des trucs. Oh là là, ça veut dire. On crée des stats pour créer des stats, quoi, c'est tout, pour donner à manger.
J'espère qu'on n'aura pas trop de statistiques sur les éclairs et la foudre.
On va faire venir un climatologue ou un météorologue en plateau.
Justement, il nous reste 5 petites minutes. Pierre, j'ai dit, on a exceptionnellement décalé cette émission parce qu'on pourra se rapprocher le plus près possible du match qui va se dérouler à 23h et que vous pourrez suivre avec les commentaires de Eladj et Théo. T'es pas adapté, toi l'historien du sport, sur la Coupe du Monde, il n'y a pas des petites anecdotes sympas qui se sont passées un petit peu insolites?
Il y en a plein.
Il y a l'histoire des maillots. Je me souviens, en 78, en Argentine, l'équipe de France a été chercher des maillots chez un commerçant de sport.
Oui, ça c'est rigolo.
En vert et blanc, ça, ouais.
Mais la Coupe du Monde en Argentine, c'était un peu raide. En finale aussi, il y a le plâtre de Willy Van de Kerkhoff qui ne peut pas jouer parce qu'il faut qu'il rentre en vestiaire pour changer son plâtre pour
un peu. Oui, c'est vrai, je me souviens maintenant. Oui, oui, oui.
Waouh, ça, c'est de l'anecdote, ça.
Les Néerlandais ont été un petit peu perturbés. Et après, il y a la dictature. Donc là, on n'est plus dans l'anecdote. Mais si, on a une autre part. En 1974.
Avant
la finale, Pays-Bas-Allemagne.
Oui. Pays-Bas-Allemagne, vas-y.
Les joueurs hollandais ont fait une...
Vas-y, on
fait une petite fête avec des filles. C'est de leur
âge. Alors.
Oui, et la presse allemande a sorti l'affaire, la veille de la finale.
Allez,
avec
balance
des photos.
Qui a balancé?
Non, mais alors, du coup, les joueurs hollandais, Johan Cruyff en tête, ils ont été obligés de passer un très gros moment à s'expliquer avec leur femme. Donc, ils étaient...
Oh là là.
Ils sont arrivés à la veille du match. Hein.
Ça n'a pas été la meilleure des préparations. Alors.
Bah non, clairement pas, non.
Vous
voyez la shitstorm, Cristiano Ronaldo, João Neves, Francisco Conceição, c'est du pipi de chat à côté de ce qu'on va entendre. Est-ce qu'il y avait les réseaux sociaux à l'époque? Mon Dieu, qu'ils auraient pris.
L'anecdote a été sortie un petit peu plus tard, mais effectivement, ça a grandement pénalisé leur préparation pour la finale. Parce qu'ils étaient quand même au moins les trois quarts téléphonés à madame.
C'était l'équipe qui avait fait la plus grosse impression sur le mondial. Le réalisme allemand à l'époque, c'était ce fameux réalisme qui nous a fait tant de mal pendant des années.
Ouais. Bon, et qui fait encore mal aujourd'hui en 2026.
C'est un peu passé quand même. Hein.
Ouais, mais quand même. Ça, sur le match contre la Côte d'Ivoire, honnêtement, j'ai eu des vieux relents de vous n'avez pas marqué, nous on va marquer. Ouais. Voilà, c'est le côté très cruel.
On aura quand même rendu la monnaie de la pièce depuis.
C'est pas faux. C'est pas faux.
Le Pays-Bas-Allemagne de 1974, ça marque un basculement. C'est la victoire du football pragmatique sur le football romantique.
Oui.
Et c'est ça, hein. Parce que les Pays-Bas...
C'était le symbole des années 70, les Beatles.
C'était les Beatles, qu'on fait des matchs superbes toute la Coupe du Monde.
Quelle idole.
Je me souviens des matchs contre l'Argentine. Il pleuvait des trombes d'eau. Il y en a un qui s'amusait 4-0.
Il y a même eu des pompes à eau, je crois.
Oui,
pour Allemagne-Pologne, je crois, la demi-finale.
Ça existait, pompes à eau mécanique? Ça existait déjà à l'époque ?
Il me semble que c'était plutôt des femmes de ménage.
Non, non, mais il y avait aussi...
Ah, waouh.
Il y avait aussi... Pas...
Ah, waouh.
Non, c'était en Afrique du Sud.
Oui, attention, vocabulaire. Oui, oui, attention, c'est pas
non,
bien
c'était
ça.
C'était la pompe à eau. Ils avaient sorti les pompes à eau pour évacuer les terrains. Quoi.
On va mettre ça sur le compte de la chaleur. Hein.
Oui, ouais, 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 il fait 39 degrés ouais. aussi dans, la, dans le studio.
Voilà. Bon, ben, messieurs, on a bien rigolé, c'est ça aussi la Coupe du Monde.
Oui, oui, des belles histoires.
Ouais, on se retrouvera naturellement la semaine prochaine. Théo, tes fiches sont prêtes, tout est prêt.
Tout est prêt, tout est prêt.
Tu t'es rodé pour PSG. Chelsea.
Là, on y va, là, c'est, bon, c'est la Coupe du Monde.
Ouais, ouais.
Non, bon, on est prêt. Tout
comment
est prêt.
On se prépare ? Tiens, juste avant, il nous reste une petite minute. Comment on se prépare pour commenter un match ?
Alors, moi, je fais ça de manière peut-être très scolaire. J'apprends encore. Donc, je fais le plus de fiches possibles sur les différents joueurs, en essayant de noter quelques anecdotes sur chacun.
Ces fameuses fiches.
Les compositions, on travaille qui pourrait rentrer, les enjeux du match, évidemment.
Ouais.
Et surtout, c'est surtout écouter, en fait, beaucoup écouter tout ce qui se fait à côté.
Et tu t'es entraîné un petit peu en off ?
Oui, bien sûr, oui, chez moi, je révise chez moi, ma copine me prend pour un fou. Parce que je suis là, je regarde les matchs, je dis les noms des joueurs.
Tous ceux qui pratiquent ce métier sont passés par là, les voisins, la copine,
le copain,
tout le monde.
On parle seul dans les salles de bain, on fait les présentations qu'on fait jamais après. Hein,
Exactement. De toute façon, là, pendant un mois, elle est prévenue, on va quasiment pas se voir parce que je vis la nuit, je suis une chauve-souris.
Bienvenue au club.
On fait que se croiser.
Est-ce que tu as un cri spécial pour les buts?
Non, j'essaie justement de dormir. On verra comment ça viendra.
Franchement, je vais vous dire une chose, pour l'avoir écouté et vu à l'œuvre lors de PSG Chelsea, franchement c'était très très chouette
gentil,
à voir.
Merci. On va essayer de faire la même chose.
Voilà. Donc, vous restez avec nous, 23h donc France-Irak sur mon Paris FM avec LAG et puis Théo. Et puis sinon pour le point foot, on se retrouvera encore vendredi. Il y aura l'avant-match entre 20h et 21h et puis à nouveau donc France-Norvège en direct sur mon Paris FM à partir de 21h. Merci en tout cas pour votre immense fidélité. Merci donc à notre ami Léo. Et puis écoutez, vive les bœufs et vive le foot. Et belle soirée à toutes et à tous.
Belle soirée, à la semaine prochaine.
Merci beaucoup. Voilà. Et puis lundi, on revient en truc classique 19h, 21h.
Allez. Donc,
belle soirée.
C'est final.